Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
Ok. Alors, la première question, qu'est-ce qu'une source de bénédiction? Peut-être qu'avant ça, il faut déjà voir qu'est-ce qu'est la bénédiction. La bénédiction est un mot qui a rapport avec le bien. Être béni, c'est recevoir le bien. C'est de recevoir de bonnes choses. C'est de recevoir des choses qui vous font du bien. C'est de recevoir des choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc, il y a bénédiction quand vous recevez des choses qui sont bien pour vous, qui vous apportent du bien, qui vous font du bien. Généralement, les choses que vous désirez. Mais je précise que parfois, les choses qui vont vous bénir ne sont pas des choses que vous désirez. Mais elles ne sont pas moins des bénédictions. Quand un enfant fait une bêtise, quand un enfant fume, quand un enfant se drogue, que ses parents lui donnent une correction pour le décourager, en fait, c'est une bénédiction pour lui. Qu'on fasse ce qu'il faut pour lui enlever le mal. Parce que s'il continue de faire ça, à la longue, cela va détruire sa vie. Donc, la sanction ou la punition donnée à un enfant est une bénédiction pour lui. Il ne l'aime pas, il ne l'apprécie pas, il n'est pas content. Mais quand on doit regarder les choses objectivement, c'est une bénédiction pour l'enfant que de recevoir la correction de ses parents. Donc, la bénédiction, ce n'est pas seulement les choses que vous aimez. Ce n'est pas les choses que vous voulez. Pas seulement. Il y a des choses que vous voulez dedans. Mais c'est en général tout ce qui va vous faire du bien. Ce qui est bien, ce qui est utile pour que vous vous portiez bien, que vous vous sentez bien, non seulement ponctuellement, mais durablement. Parce qu'une vraie bénédiction va être une bénédiction dans la durée, va être une bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin. L'une des signatures de Dieu quand Dieu vous bénit, c'est que Dieu dit qu'il ne donne jamais rien qui soit suivi de chagrin. Donc, une bénédiction qui vient de Dieu n'est jamais suivie de chagrin. Or, quand Satan vous donne des choses qui ressemblent aux bénédictions, mais qui ne sont que des malédictions, à première vue, ces choses brillent beaucoup comme de l'or, mais rapidement, elles rouillent, devenant des sources de chagrin, des sources de problèmes, vous empêchant de dormir. Or, à l'inverse, quand Dieu veut vous donner quelque chose, ça paraît difficile, ça paraît éprouvant. Il faut vraiment avoir du mérite, il faut vraiment avoir de la foi, il faut vraiment avoir de l'endurance pour les conquérir. Elles ne sont pas généralement des choses très séduisantes à première vue, mais quand vous y rentrez, vous découvrez la grâce, vous découvrez le bonheur, vous découvrez le repos, et de manière durable, ininterrompue. Donc, une vraie bénédiction, c'est durable. Une vraie bénédiction n'est pas suivie par le chagrin. Une vraie bénédiction est souvent reçue par la grâce. Ce n'est pas forcément le produit de gros efforts, ce n'est pas qu'il faut dormir. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien, sans vous créer des soucis, sans vous créer des tracasseries, sans vous empêcher de dormir. Et le problème dans notre monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens recherchent des choses qu'ils croient être des bénédictions, alors que ces choses-là ne sont pas des bénédictions. Nous sommes dans un monde où on fait beaucoup de choses, où on cherche beaucoup de choses, en croyant qu'elles vont nous rendre heureuses. Et quand nous les avons, nous nous rendons compte que nous avons eu ce que nous cherchions, mais nous ne sommes pas plus heureux qu'avant de l'avoir. Combien de fois n'avons-nous pas désiré quelque chose, être prêt à voler pour quelque chose, être prêt à mentir pour quelque chose, ne pas dormir pour quelque chose, se battre pour quelque chose. Et quand nous le recevons, nous réalisons que finalement, qu'est-ce que ça change à ma vie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Vous voyez une robe dans une boutique, là que vous ne l'avez pas achetée, vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes prêt à tout pour l'acheter. Quand vous la prenez, ça ne fait pas 24 heures avant qu'elle ne vous dise plus rien. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, nous croyons parfois que certaines choses vont nous bénir, alors que dans le fond, elles n'apportent rien. Elles ne sont que le produit de notre orgueil, le produit de nos passions. Et parfois, souvent, Dieu ne veut pas nous donner certaines choses que nous lui demandons en croyant qu'elles sont des bénédictions, parce que Dieu sait que ce ne sont pas des bénédictions. Et la bénédiction est aussi relative à chaque personne. Si quelqu'un, par exemple, n'a jamais compté 10 000 francs dans sa main, j'ai déjà vu des gens qui n'ont jamais, on leur a jamais remis un billet de 10 000 francs dans leur vie. Un gars comme ça, parce qu'il a fait retrouver un meeting politique, quelqu'un est élu président et le parachute ministre. Comment celui-là, quand il va devoir gérer des milliards dans son ministère, va se comporter? Ce n'est pas une bénédiction que de confier la gestion d'un milliard à quelqu'un qui, avant ça, n'a jamais touché 10 000 francs. Parce que quand vous n'êtes pas préparé à une bénédiction, elle vous détruit. Quand vous regardez la Bible, l'histoire de la chute de Satan, qui s'appelait Lucifer, c'est l'histoire du plus grand des anges, le plus béni, le plus puissant, le plus beau, le plus intelligent, le plus proche de Dieu. Et tout ça lui est monté à la tête. Cette puissance, quand ça rencontre un cœur qui n'est pas entièrement loyal et pur, devient une occasion de chute, une occasion de destruction. Et quand vous regardez dans la Bible, beaucoup de grands héros ont eu ce problème. Des gens qui avaient une grande capacité. Mais quand cette grande capacité ne va pas avec un cœur soumis à Dieu, ne va pas avec un cœur d'humilité, cette grande capacité, ce qui aurait pu être une bénédiction devient une malédiction. C'est pour ça, par exemple, que je ne sais pas, ça doit être David qui dit à Dieu, « Donne-moi assez pour que je ne sois pas tellement pauvre que je mendie ou que je vole, ce qui va te honnir, mais ne me donne pas tellement que je devienne orgueilleux. » Tout le monde n'est pas préparé à gérer beaucoup. Il y a des gens que vous mettez beaucoup dans leurs mains, vous les poussez au péché, vous les poussez au vol, vous les poussez à la convoitise, vous les poussez à l'adultère. Il y a des gens qui ne peuvent pas compter 50 000 sans passer leur soirée dans la boîte de nuit pour acheter un casier, montrer à leurs amis qu'aujourd'hui aussi ils peuvent acheter un casier. Quand quelqu'un a ce niveau d'immaturité spirituelle, ce qui pour un autre va être une bénédiction devient une malédiction pour lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc la bénédiction, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être ce que vous voulez. Parfois, c'est ce que vous ne voulez pas. Et c'est pour ça qu'on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie dont nous nous plaignons. Mais quand vous regardez bien, avec le recul, c'était des bénédictions. Une bénédiction n'est pas toujours quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Si vous êtes par exemple quelqu'un de très orgueilleux, vous ne pouvez rien réussir dans la vie parce que Dieu brise toujours les orgueilleux et élève les humbles. Cela veut dire que tant qu'on vous laisse votre caractère d'orgueil, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire dans la vie. Mais quand Dieu permet que par certains temps et circonstances, vous subissiez des choses qui vous humilient, qui vous brisent, qui vous ridiculisent, sur le coup vous pleurez, sur le coup on vous plaint, mais vous sortez de ces choses humiliées. Parce que vous êtes humilié, vous n'êtes plus orgueilleux. Parce que vous n'êtes plus orgueilleux, vous êtes maintenant éligible à l'élévation. Cela veut dire que parfois, l'humiliation la plus grande dans une vie peut être la plus grande bénédiction de cette vie. Quand vous prenez un Mandela, qu'est-ce qui fait sa puissance? 27 ans d'humiliation en prison. Vous prenez des gens comme Martin Luther King, qu'est-ce qui fait leur pouvoir? L'humiliation jusqu'à la mort. Vous prenez Jésus, il a été élevé au-dessus de tout parce qu'il a été humilié plus que tout. C'est inversement proportionnel. L'élévation suit toujours l'humiliation. Parfois, on s'humilie soi-même par sagesse, par connaissance de Dieu. Parfois, il faut que la vie vous brise pour que vous le fassiez. Mais dans tous les cas, être humilié est souvent une source de bénédiction. Mais une bénédiction que personne n'ose demander, même si c'est une grande bénédiction dans la vie. Beaucoup de gens sont devenus présidents de la République en sortant de prison. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a envie d'aller en prison. Mais les faits prouvent bien que ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont brisés, ceux qui ont dû faire le maquis, ceux qui ont dû aller en prison, quand ils sortent, ils sont plus forts que les autres. Parce que l'humilité précède la gloire, qu'elle soit volontaire ou forcée. Et la malédiction, naturellement, c'est le contraire de la bénédiction. C'est le mal qui vous arrive. C'est ce qui vous rend mal. C'est ce qui vous détruit. C'est ce qui ne vous fait pas de bien. Il faut bien entendu avoir le discernement pour savoir dans la vie qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va vous faire du mal, afin d'aller vers ce qui va vous faire du bien et de fuir ce qui va vous faire du mal. Maintenant, quand je parle d'être une source de bénédiction pour les autres, Je parle du fait que chacun de nous a pour vocation première de servir les autres. Quand les disciples ont demandé à Jésus qui était le plus grand, il a dit en fait, celui qui va servir les autres. C'est-à-dire que votre puissance dans la vie, votre niveau dans la vie, votre niveau sur l'échelle sociale n'est pas déterminé par ce que vous voulez. Votre niveau sur l'échelle sociale est déterminé par en quoi vous êtes un serviteur. Regardez dans la vie. Jésus a dit que le plus grand des serviteurs, c'est-à-dire celui qui sert le plus les autres, sera aussi plus grand que tous les autres. On a l'impression que c'est contradictoire, mais c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Un homme politique, c'est quoi? Il devient président de la République, il devient ministre, pourquoi? Parce que le temps d'une élection, il se fait plus petit que tout le monde. Il va passer de maison en maison. Tous les gars qui lui arrivent même pas à la cheville, il va faire semblant de les aimer. Il va les embrasser. Il va boire chez eux. Il va manger avec eux. À ce moment-là, tu peux même le tapoter sur la tête si c'est la campagne électorale. Il ne va rien te dire. Pendant la campagne électorale, il est ton ami, il s'humilie. Il va venir dans votre village, il va écouter vos rois, il va faire semblant de vous blaguer, il va dire « je vous aime ». Pendant ce temps-là, il est en train de s'humilier. Mais quand il a fini de s'humilier, que tu lui as donné le pouvoir. Parce que l'humilité précédant la gloire, quand il s'humilie, il a la gloire. C'est là qu'on saura s'il était un humble sincère ou un humble comédien. Mais toute élection se gagne par l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité de te rabaisser, à aller dire aux autres que tu vas les servir, à aller les servir, à passer de bourse en bourse, de village en village pour parler aux gens, tu ne vas jamais devenir président de la République. Si c'est un chef de quartier, si tu ne vas pas voir chaque personne dans le quartier, tu n'as pas de chance d'être élu chef de quartier. Un grand chef, c'est d'abord un grand serviteur. Vous prenez au niveau des affaires. Regardez les commerçants les plus riches. C'est les Libanais, c'est les Yoruba, c'est les Indo-Pakistanais. Ils ont une différence fondamentale avec les fonds. Les fonds que nous sommes très orgueilleux. Tu ne vas jamais voir un fonds s'humilier pour servir un client. Ils se considèrent comme prince, descendant de je ne sais trop quel roi, de quel lien, et ils estiment que c'est rabaissant que de servir. Vous allez les entendre dire nien, arovi, naïs, ando, tokwa, bere. Si vous connaissez un homme fort en train de voir tokwa, montrez-le-moi. Ça n'existe pas. Si vous voyez un homme à tokwa, c'est un Aoussa, c'est un Adia, c'est un Yoruba, mais c'est jamais un fond. Il n'y a pas de fond qui vend à tokwa un homme. Parce qu'il estime que c'est humiliant pour un homme, en bon fond, abomé, prétentieux, orgueilleux que nous sommes, sous prétexte que nous venons de lier royal. Le fond estime que c'est une affaire de femme que se miller à vendre. Alors que le Yoruba, il est prêt à tout. Si c'est pour prendre ton argent, si tu veux même qu'il se couche, que tu mettes la tête, le pied sur sa tête, il dit oui. Et les fonds ont tendance à se moquer, par exemple, des Yoruba ou des Haoussa en disant ils sont prêts à tout pour de l'argent. Mais vous qui n'êtes pas prêt à tout pour l'argent, là, vous mourrez pauvre avec de grands doctorats, de grandes agrégations. Vous êtes professeur émérite, agrégé, maître de chaire. Vous n'êtes même pas capable d'acheter une voiture, vous mourrez dans la pauvreté. Regardez tous nos dents là. Combien de doctorats ils n'ont pas? C'est difficilement qu'ils mangent à leur faim. Parce que l'orgueil précède toujours la déchéance. Quand tu vas dans la boutique d'un commerçant libanais ou yoruba, il est milliardaire, il est 10 fois plus riche, 100 fois parfois plus riche que toi. Il est lui-même à son comptoir. Tu amènes 100 francs, il va te dire merci. Si un fonds a 10 millions dans son compte, tu ne le verras pas. Il devient super PDG. Il faut prendre rendez-vous pendant 10 ans pour aller lui dire bonjour. Si je mens, vous me dites en même temps. Hein? C'est pour ça que les fonds sont pauvres. Les fonds sont les plus nombreux au Bénin, ils sont les plus pauvres. C'est pour ça que le Bénin est pauvre. Je suis fond, mais il faut dire la vérité comme elle est. C'est les fonds qui appauvrissent ce Bénin. Par la culture de l'orgueil que nous avons. L'orgueil précède la déchéance. L'humilité précède la gloire. C'est des lois de la vie, vous n'y pouvez rien. Si quelqu'un n'est pas un serviteur et qu'il n'est pas utile à beaucoup de personnes, il ne sera jamais grand. Quand quelqu'un est un grand docteur, ce n'est pas à cause de ses diplômes. Tous les docteurs ont les mêmes diplômes. C'est parce qu'il a aidé beaucoup de gens. C'est parce qu'il a soigné beaucoup de gens. C'est parce qu'il a été utile à beaucoup de gens. Chaque fois que tu es utile à quelqu'un, ta réputation grandit. On est important dans la vie. On gagne en autorité dans la vie en fonction de l'utilité qu'on a pour les autres. Plus tu es utile aux autres, plus tu es indispensable aux autres, plus tu vas gouverner les autres. Pourquoi les gens aiment certains arbres, le manguier, l'oranger, qu'on sort? Ce n'est pas parce que les arbres sont beaux. Ce n'est pas parce que le nom de ces arbres leur plaise. C'est parce que ces arbres ont des fruits qu'ils aiment. Personne ne connaît le nom d'un arbre dont il ne connaît pas l'utilité. Si tu as le nom d'un arbre, c'est parce que tu aimes ses fruits ou parce que tu connais ses fruits. Si tu as le nom d'une plante, c'est parce que tu utilises ses plantes. Par exemple, il y a plein de plantes dans la forêt, vous ne connaissez même pas leur nom et vous ne les connaîtrez jamais. Mais quand tu vas voir les vieux qui utilisent ces plantes pour faire des médicaments, ils connaissent le nom de chacune de ces plantes par cœur. On ne s'intéresse à quelque chose. On ne considère quelque chose
que quand cette chose-là vous est d'une certaine utilité, quand cette chose-là vous sert. Cela veut dire que pour grandir dans la vie, il ne faut pas vouloir grandir. Je vois des jeunes qui m'écrivent, monsieur Kdibi, comment faire pour être célèbre? Je dis, pourquoi vous voulez être célèbre? On ne choisit pas d'être célèbre. On ne travaille pas à être célèbre. On sert les autres. On bénit les autres. On est un serviteur des autres. Et en conséquence, on est obligé d'être célèbre. Pas parce qu'on le veut, mais parce que les autres sont obligés de vous chercher. Regardez bien. Les gens qui ont une vraie valeur, je ne parle pas des agités qui bavardent, dont on parle un an, deux ans et qui disparaissent. Je parle des gens qui, dans la durée, de manière structurelle et durable, sont des poids lourds. C'est toujours parce que dans leur domaine, ils sont plus utiles aux autres que tout le monde. Quand vous prenez par exemple les stars de cinéma, prenez les stars de la musique, les stars que les jeunes aiment, je ne vais pas donner de nom pour ne pas moquer d'eux, leur cycle de vie c'est 2 ans ou 3 ans. Quand ils font la musique agitée, tout le monde crie gogo, tout le monde les chante dans les boîtes de nuit. 2 ans après, personne ne parle plus d'eux. Parce que d'autres personnes viendront, on va crier encore leur nom, 2 ans on va les oublier. Les stars de football, ils gagnent des milliers, on parle d'eux. Quand vient 25 ans, quand vient 30 ans, on les met à la retraite. Quelqu'un en parle encore? Vous savez, un nombre de sportifs qui ont gagné des milliards dans leur vie qui deviennent mendiants après? On a vu des champions de boxe dans notre pays ici mourir ici comme des voyous. La célébrité fabriquée par les hommes est éphémère. Elle n'apporte que du chagrin. On a des journalistes à la télé, tout le monde crie leur nom. Allez voir leur maison. Ils n'ont même pas de quoi s'asseoir parfois dans leur salon. Non, ce n'est pas la publicité inutile. Ce n'est pas le tapage sur une vie. Ce n'est pas la volonté de faire n'importe quoi, de se tatouer, d'avoir des cheveux comme des coqs ou comme des chiens, d'avoir des barbiches comme des boucs. Ce n'est pas de se dépigmenter pour ressembler à une tomate pourrie. Ce n'est pas ça qui donne la célébrité. Mais nous sommes dans un monde où les jeunes sont prêts à n'importe quoi pour qu'on les remarque. Ils veulent attirer de force l'attention. C'est inutile, c'est vain. Vous allez vous détruire, ça ne mène nulle part. Il ne faut pas chercher à paraître. Il faut travailler pour être. Et si vous êtes, parce qu'on ne peut pas allumer une lampe et le mettre sur le boisseau, si vous êtes une lampe, on n'a pas besoin de demander à l'obscurité de partir, l'obscurité disparaît. Mais ça ne sert à rien de rester dans l'obscurité et de vous amuser à faire du bruit pour montrer aux gens qu'il y a quelqu'un dans l'obscurité. Vous allez faire du bruit pendant combien de temps? Mais beaucoup de gens vivent en se demandant comment paraître. La dernière collection de Waxor, on doit la porter pour montrer soi-même dans la page. On n'a pas d'argent pour manger, on n'a pas de moto. On n'a pas un commerce. On va s'endetter pour acheter gold, pour acheter Beyrouth. Parce que soit aussi on veut être dans telle catégorie. Parce qu'on veut faire aussi comme les autres. On se pourrit la vie à essayer pour des passions jalouses de faire des choses qui sont inutiles. Paraître fait souffrir. Paraître est éphémère. Paraître est vain. Mais quand vous êtes quelque chose, en servant les autres, en étant un bon et humble serviteur, votre gloire est forcée parce que les autres vont vous élever. Quand Jésus finit de faire un miracle, les gens l'applaudissent. Quand il leur donne à manger, dis sois notre roi. Ce n'est pas qu'ils aiment Jésus, la pauvre, ils l'ont crucifié après. Mais si tu es capable de nous nourrir, il n'y a pas de problème, viens être notre roi. Mais si tu ne peux rien faire pour nous, ce n'est pas la peine de te fatiguer, à m'impressionner, à aller en boîte de nuit, à marcher comme un singe, à porter des chaînes tordues, à mettre des pantalons en dessous des fesses, de t'habiller, à porter des décolletés pour paraître. Tu vas faire ça combien de temps? Les gens vont te voir, ils vont jouer avec, ils vont jeter. Mais tu ne vas rien bâtir de solide sur le paraître. On ne bâtit le solide que sur l'être. Donc, pour être, il faut faire en sorte d'être une source de bénédiction. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui apporte du bien aux autres. D'être quelqu'un qui fait le bien aux autres. D'être quelqu'un dont on a besoin. D'être quelqu'un vers lequel on est obligé d'aller parce qu'on en a besoin. Vous devez être quelqu'un de telle sorte qu'on doit pouvoir dire, ce gars-là, je ne l'aime pas, il m'énerve, mais comment je vais faire maintenant? C'est le seul à pouvoir régler mon problème. Donc, je vais y aller. Moi, je dis toujours, ceux qui m'aiment, c'est tant mieux. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est tant pis. Mais, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, il y a des choses pour lesquelles il faudra bien venir à moi. Parce que en ça, je suis utile. Parce qu'en ça, j'ai quelque chose à offrir que personne d'autre ne peut offrir. Chaque homme doit découvrir sa vocation. Il doit découvrir les talents, les dons que Dieu lui a donnés. Dieu a donné à chaque personne des choses, une onction qui, s'il l'utilise, va faire de lui un pouvoir de bénédiction tel que, qu'on l'aime ou pas, comme le dit le Seigneur, ce ne sera pas à vous de retourner vers eux, ce sera à eux de venir vers vous. Parce que vous êtes une source de bénédiction. C'est eux qui viendront et vous allez faire comme Jésus, nous sommes fatigués, passons sur l'autre rive pour aller dormir, nous reposer un peu. Vous n'avez jamais vu Jésus essayer d'attrouper la foule? La foule venait et il fuyait la foule. Mais aujourd'hui, les gens se battent. On prend des bus, on donne 2 000 francs aux gens. On fait tout pour réunir les gens de force pour faire un meeting. Comment on peut acheter les gens pour venir faire semblant de vous applaudir? Comment on peut fabriquer le faux de manière structurelle durable? On ne peut pas bâtir un système sur du faux. Parce que le faux brille beaucoup, mais ne dure pas longtemps. On dit que la vérité prend les escaliers, le mensonge prend les ascenseurs. Mais dans tous les cas, quand la vérité arrivera, le mensonge devra s'éclipser. On peut mentir à tout le monde quelque temps. On peut mentir à quelques personnes tout le temps. On ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Mais il y a des gens qui sont tellement naïfs qu'ils vivent comme s'ils pouvaient toute leur vie mentir à tout le monde. Et ils se mentent tellement à eux-mêmes et aux autres qu'ils finissent par croire leur mensonge. Nombreux sont ceux qui ont fini par croire leur mensonge. Et ils se prennent pour qui ils ne le sont pas. Naturellement, leur vie est pathétique parce que personne ne peut vivre dans le faux. Vous devez devenir vrai avec vous-même. En sachant qu'un homme ne naît pas pour être quelque chose qu'il n'est pas. Un homme ne naît pas pour faire semblant d'être quelque chose. Un homme naît fabriqué par Dieu pour une mission précise. Je l'ai souvent dit ici, quand vous regardez par exemple tout produit, tout objet qui a été fabriqué, la finalité d'un bien précède toujours sa création. Vous ne verrez rien sur la terre qui a été fabriqué avant qu'on ne se demande qu'est-ce qu'on va faire avec. Quand vous voyez une chaise, et je vais vous dire que la chaise est sortie par hasard de quelque part, et ayant vu sa forme, on a décidé de s'asseoir dessus. Ou bien que la caméra a été fabriquée par hasard, par un concours de hasard, de combinaison de choses, et on a fini par découvrir qu'on pouvait filmer avec. Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un veut filmer, quelqu'un veut avoir des images, il veut avoir du son, il veut que ça se conserve. Il a défini clairement qu'est-ce qu'il veut comme résultat. Et il a travaillé pendant des années pour créer quelque chose qui va faire ce qu'il veut faire. Tout produit est conçu et créé après qu'on ait décidé qu'est-ce qu'il doit faire. On est d'accord? Et tout homme bête sait que c'est comme ça. Chaque détail, chaque caractéristique d'un objet correspond à l'une des finalités de l'objet. Mais c'est pareil pour les hommes. Pourquoi vous croyez que Dieu est plus bête que les hommes? L'homme est la machine la plus complexe de l'univers. Rien sur la terre n'a le quart du niveau de complexité, de perfection de l'homme. Ils ont fabriqué toutes sortes de robots. Ils ne sont même pas encore à 1% du potentiel de l'homme avec les robots. Alors, pourquoi croyez-vous que Dieu peut fabriquer une machine aussi sophistiquée que ça sans avoir prédécidé ce que ça doit faire? Chaque homme a des qualités et des défauts, a des forces et des faiblesses, est né quelque part, a un nom, a des opportunités, a des temps et des circonstances. Tout ce qui est dans votre vie est une combinaison de facteurs soigneusement choisis ou permis par Dieu pour atteindre un résultat donné. Si tu es né pour sauver des malades dans un hôpital, comme par exemple médecin, et que tu te mets à essayer d'être avocat, tu vas être un médiocre avocat, tu vas souffrir beaucoup, tu ne seras jamais un grand avocat. Tu peux avoir tous les doctorats, faire tout ce que tu veux, tous les tapages que tu veux, tu ne seras jamais un grand avocat. Parce que tu n'es pas là où on t'a mis. Quand je prends une fourchette, je prends un couteau, je prends une cuillère, ce sont trois instruments pour manger à table. Mais je ne peux pas essayer de boire de la bouillie avec une fourchette. Ou bien? Mais il y a des gens qui font comme si c'était possible. Les serpillères, les torchons, les mouchoirs et les serviettes de table, parfois ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. On ne peut pas inverser les choses. Si je prends par exemple une cuillère, je vois des gens qui prennent une cuillère pour couper de la viande de bœuf frit. Ce n'est pas normal. Donc ils prennent le rebord de la cuillère et puis ils font comme ça. Finalement, ils se font mal à la main. Ils tordent la cuillère. Ils ne coupent pas la viande. Ils déchirent la viande. Et ils perdent beaucoup de temps. Alors qu'il aurait suffi de prendre un couteau, une fourchette. En 2 secondes, la viande est proprement coupée. Aucun estime n'a des problèmes. C'est pareil pour votre vie. Au-delà de toutes les techniques qu'on peut donner pour que vous soyez heureux, vous ne serez jamais heureux si vous n'êtes pas en train de faire ce pour quoi vous avez été créé. Et en laissant les détails particuliers de chaque personne, on a des séminaires qu'on a fait sur la destinée, vous pouvez les prendre en copie au niveau de Romuald. L'une des vocations génériques de tout homme, c'est d'être une source de bénédiction dans son domaine pour le monde. Contrairement à ce que nous croyons souvent, l'activité professionnelle d'un chrétien ne doit pas être dissociée de son ministère. L'activité professionnelle d'un chrétien ne doit pas être dissociée de son ministère. On ne rend pas ministère qu'à l'église. Parce que Dieu dit, que le monde attend avec un ardent désir, la révélation des vrais enfants de Dieu. Le monde n'est pas dans les églises. Donc, si vous êtes un chrétien, vous n'êtes que dans les églises. Ça m'étonnerait que le monde vous voie. Qu'est-ce que le monde viendra chercher dans une église? Le monde va voir la révélation des vrais enfants de Dieu dans le monde. Si tu es un avocat, c'est en te voyant travailler qu'on doit dire, mais il y a encore des avocats honnêtes comme ça, des avocats disant la vérité comme ça, des avocats refusant la compromission comme ça. Et quand on va dire à personne, c'est parce qu'il est un chrétien, il va dire, ah, je comprends. Quand quelqu'un va perdre 2 millions dans une enveloppe tombée au sol, que tu le prends, que tu l'appelles pour dire, viens chercher ton argent, il te voit jeune, il voit que tu n'as même pas de moto, il voit que tu l'appelles pour remettre 2 millions. Il va demander, mais pourquoi tu m'as appelé? Parce que je vais te remettre. Pourquoi tu aurais pu garder? Je sers Dieu. Je crains Dieu. Dieu dit que le bien malin qui ne profite jamais. C'est pour toi, je n'ai pas à le prendre, je dois te le donner. C'est la meilleure évangélisation. Ce type-là, quand on lui dira que est-ce qu'il veut devenir chrétien, il peut détester les chrétiens n'importe comment. Quand il va se rappeler de ton comportement, il va avoir envie d'être chrétien. Il aura là le témoignage vivant dans la vie pratique de ce que ça veut dire quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. S'il va quelque part, tout le monde veut lui faire des coups bas, tout le monde veut l'intimider. Tu viens, tu l'aides, tu lui dis la vérité. Chaque fois qu'un chrétien, dans son travail, dans sa vie, va montrer la différence entre lui et ceux qui servent le diable, chaque fois qu'un chrétien va témoigner de l'amour, va témoigner de la patience, va témoigner du pardon, va témoigner de la bonté, va témoigner de la sollicitude pour les autres, il est en train de témoigner de ce que Dieu est vivant. Jésus dit souvent, Père, glorifie-moi pour que je te glorifie. Père, donne-moi des œuvres, des signes, des prodiges pour que je te glorifie. Quand un chrétien fait des choses extraordinaires, les gens glorifient à cause de lui Dieu. Vous prenez par exemple un accident. Quand quelqu'un fait un accident, et par exemple il est sur une moto, un camion l'écrase et le traîne sur un kilomètre avant de s'arrêter. Tout le monde est sûr que c'est sa purée qu'on va ramasser. On ne verra plus rien. Le gars se lève du dessous du camion, il n'a pas une seule égratignure. Quelle est la première question que les gens posent? Maouté annoncé. Et on dit Maouklo. C'est-à-dire que la rudesse et l'effroi de l'épreuve avec quelqu'un qui sort indemne est un témoignage pour glorifier pour Dieu que quelqu'un qui va mettre un problème qui va dire Dieu est grand, venez, Jésus vous aime. Certains vont l'écouter. Hein? Mais quand les gens ont vu un chrétien traîner sur un kilomètre par un camion, sorti sans égratignure, en train de rire et de dire bon, mon frère, je te pardonne, que Dieu t'aide. Quand ils voient ça, ça, c'est de l'évangélisation. C'est dans la vie de tous les jours que le chrétien doit montrer qu'il y a une différence entre le non-chrétien et le chrétien. C'est dans la vie de tous les jours qu'on devrait être des témoins de Christ. Quand on vous voit faire, on doit dire, si celui-là, ce n'est pas un enfant de Dieu, il ne peut pas être comme ça. Et c'est ça qui va donner envie aux autres d'être comme vous, des enfants de Dieu. C'est ça qui va donner aux autres l'impression, l'assurance qu'il est possible d'avoir encore un monde meilleur. Et ça va lui donner envie de se rapprocher de vous pour chercher à savoir d'où vous tirez cette force, d'où vous tirez cette joie, d'où vous tirez cette assurance. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont des pieds d'achoppement pour les autres. C'est les plus méchants, c'est les plus voleurs, c'est les plus bandits, c'est les plus sournois, c'est les plus escrocs, c'est les plus jaloux. Et c'est les plus pauvres. Ils s'habillent mal, ils s'attachent la tête comme des vulgaires loques, ils ne portent pas de boucles d'oreilles, ils ressemblent à du n'importe quoi, et ils vont de maison de riche en maison de riche, disent que Jésus les aime. Comment un mendiant peut venir me dire que son Dieu est grand, et moi qui suis riche, je vais laisser mon Dieu pour suivre le Dieu du mendiant? Dieu lui-même dit qu'on reconnaîtra quelqu'un à ses fruits. Et qu'une source d'eau douce ne donne pas de l'eau amère. Qu'on connaît un arbre à ses fruits. Si vous êtes les enfants du Dieu, maître de l'or et de l'argent, et vous sentez la pauvreté, ou vous êtes un enfant bâtard, ou votre Dieu n'est pas le maître de l'or et de l'argent. Même si le Père ne peut pas vous expliquer ça comme je le dis, il sent bien qu'un gars peut pas être pauvre comme ça, me dit de suivre son Dieu. Les gens veulent suivre Dieu pour avoir des solutions. Tu as tous les problèmes que le gars n'a pas. Pourquoi il va laisser ceux qui lui marchent te suivre? Toi, tu le ferais? La réalité, c'est que la plupart des chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ils parlent de Dieu, ils vont à l'église, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne vivent pas ce que Jésus a dit. Ils ne pratiquent pas ce que Jésus a dit. S'ils le pratiquaient, leur vie porterait des fruits. Et ces fruits prouveraient aux gens qui sont des enfants de Dieu. Si ton père est noir, ta mère est noire, tu es blanc, à qui tu vas faire croire que tu es le fils de ton père? Au mieux, on va poser des questions à ta mère. Si Dieu le maître de l'heure de l'argent, hyper puissant, Dieu de la santé, Dieu de l'omnipotence, toi, tu es pauvre. Il faudra qu'on demande à ta mère l'église de nous expliquer comment, si vraiment tu es l'enfant du Dieu qui est son mari là, toi tu es pauvre alors que Dieu est riche. Mettez-vous à la place des païens. Donc, être une source de bénédiction, c'est la vocation de tout croyant. Nous sommes dans le monde pour être utilisés comme, par Jésus comme ses membres. Qu'est-ce que l'on nous dit dans la parole de Dieu? Que Jésus est la tête, nous sommes les membres. Quand je décide de parler, il faut que ma bouche, il faut que ma langue réagisse. Sinon, vous ne m'entendrez pas. Si je décide de lever la main pour vous faire un signe, ma tête veut, mais ce n'est pas ma tête qui va le faire. Il faudra bien que mes membres, ma main réagisse. Quand quelqu'un est paralysé, c'est quoi? Quand quelqu'un est hémiplégique, c'est quoi? Et quand il est hémiplégique, parfois, il préfère mourir que de continuer de vivre. Sa tête fonctionne, il a des envies, il a des pensées, mais aucun de ses organes ne réagit. Il est frustré parce qu'il est là comme un légume, alors que sa tête a des envies. Jésus se sent comme ça avec l'église d'aujourd'hui. Une série de lâches, de fainéants, de peureux, qui s'enferment dans leurs églises tous les dimanches pour faire semblant de l'adorer, mais quand ils sont tous des membres lâches, il veut donner à manger à quelqu'un, personne ne bouge. Il veut sauver quelqu'un, personne ne bouge. Il veut soigner quelqu'un, personne ne bouge. Il veut aider les affamés, personne ne bouge. Il veut des gens pour libérer les captifs, leur annoncer la bonne nouvelle, personne ne bouge. Chacun se soucie de ses problèmes, chacun s'occupe de sa femme, de ses enfants, vient à l'église dimanche avec ses meilleurs habits pour qu'on voit aussi qu'il en a, et tout le monde se fout de Jésus. Jésus est paralysé par des chrétiens fainéants et peureux qui passent leur temps à juger le monde. Tel est païen, tel est ci, tel est ci, tel est ça. Au lieu d'aller dans le monde pour sauver les gens. Jésus dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Je ne peux pas être la lumière, être à Tukuntuna et dire que je veux éclairer Porte Nouveau. Quand tu veux éclairer quelque part, tu vas à l'endroit. Si le chrétien veut éclairer le monde, il faut qu'il aille dans le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, même si vous n'êtes pas du monde. Les chrétiens se comportent comme s'ils n'étaient pas dans le monde. En fait, Noël, les chrétiens disent qu'il ne faut pas, il faut rien dire, parce que c'est la fête des païens. C'est la fête des païens, il faut en profiter pour parler de Jésus. On fait Saint-Valentin, il faut les malins, c'est la fête du diable. C'est la fête du diable, mais les gens parlent de l'amour. Profite-en pour lancer le vrai amour de Dieu. Arrête de faire le malin. On dit 1er janvier, le chrétien dit oui, dans le calendrier juif, janvier c'est à Pâques, moi je ne fais pas, c'est de la stupidité. Paul dit que nous n'avons plus rien à faire avec les dates. Quand il est parti à Athènes, il a parlé aux gens de leur Dieu pour leur expliquer Jésus. Il dit, quand je suis avec le païen, je fais dans tous les cas, un peu comme lui, afin dans tous les cas d'en gagner quelques-uns. Ça, les chrétiens l'ont oublié. Ils s'enferment comme des pharisiens dans leurs églises, avec des titres pompeux, ne faisant rien. Il y a des églises qui, en 10 ans, n'ont pas fait une seule campagne d'évangélisation, qui n'ont pas gagné une seule âme. Ils sont pressés d'avoir les quêtes, d'avoir les offrandes, de prophétiser aux gens que s'ils donnent 1 million, leur vie va changer en 7 jours. Mais ils ne sont pas capables de travailler une vraie source de bénédiction pour le monde. La vocation d'un chrétien, ce n'est pas d'abord d'être béni, c'est d'être une source de bénédiction. Jésus a dit, allez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre pour être mes témoins. C'est-à-dire que quand on vous voit, on doit voir en vous Jésus. Quand on voit les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'on voit Jésus? On ne voit pas Jésus à travers les chrétiens d'aujourd'hui. Or, le chrétien, il dit par exemple, si vous allez aider un prisonnier, vous allez visiter un malade, vous allez aider une veuve, c'est pour moi que vous le faites. C'est-à-dire, vous êtes mon membre, vous êtes en action pour moi. C'est ma mission que vous faites quand vous faites ça. Quand nous sommes sauvés, quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est gagné pour l'éternité, pour le paradis. Il n'y a plus rien qui peut vous envoyer en enfer, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Mais si votre âme est déjà scellée pour le ciel, et que Dieu ne vous rappelle pas au ciel, c'est parce qu'il veut maintenant qu'ayant reçu la vie éternelle, vous lui rendiez un peu de la monnaie, même si ça ne peut être qu'une infime partie, en l'aidant à faire ce que lui a à faire sur la terre. Dieu n'a besoin de nous pour rien du tout sur la terre, tout lui appartient. La seule chose que Dieu attend d'un chrétien, c'est d'annoncer à son tour la bonne nouvelle. Vous avez reçu le salut gratuitement. Dieu veut que vous l'aidiez à annoncer le salut gratuitement. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Parce que nul ne peut confesser que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne l'en convainc. Mais le Saint-Esprit vous dit qu'il ne peut pas convaincre quelqu'un si la bonne nouvelle ne lui est pas annoncée. Et la bonne nouvelle peut pas être annoncée si quelqu'un ne la prêche pas. Tu as des collègues au travail, tu as des collègues dans ta famille, tu as des amis, tu as des frères, tu as des sœurs. À l'église, tu cries Alléluia, tu es le grand chrétien. Tu as des voix avec qui tu es depuis 5 ans. Ils ne savent même pas que tu es chrétien, tu n'as jamais parlé de Jésus. Il a dit, tu te fous pas mal qu'ils aillent en enfer. Tu ne leur as jamais rien dit. Tu n'as jamais vu quelqu'un en train de pleurer. Tu n'es jamais pas. Tu dis, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas voir un enfant malade, aller lui imposer les mains alors que tu as reçu le pouvoir. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a faim, aller lui donner à manger. Tu t'en fous de ça. Tu vas à l'église le dimanche pour jouer le grand chrétien évangélique ou le grand chrétien je ne sais trop quoi. Tu t'en fous d'être une source de bénédiction. Tu es un membre inutile et paralysé pour Jésus. Et tout homme est très furieux contre tout membre paralysé. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Il n'y a rien qui frustre plus un homme qu'un membre inutile qui ne réagit plus à ses ordres. On donne la puissance à un membre pour faire ce qu'on veut qu'il fasse. Si une main ne me sert à rien, autant la couper. Si mon pied ne me sert à rien, autant le couper. Beaucoup de personnes dans l'église prient, jeûnent, veillent, crient. Tout ce qu'ils font là n'ont rien. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'on vous donnera comme vous aurez donné. Qu'on utilisera la même mesure que vous prenez pour servir les autres, pour vous servir. Vous avez été sauvés gratuitement, mais vous ne serez pas gratuitement bénis. Pour recevoir la bénédiction sur la terre, il faut d'abord la donner. Dans le monde, on reçoit, on l'utilise comme on veut, et si par hasard il y a un supplément, on donne. Mais dans l'économie de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dans l'économie de Dieu, on fait exactement le contraire. On donne d'abord et on récolte ensuite. C'est comme l'agriculture. Les choses de ce monde sont l'ombre des choses à venir. Quand tu es un paysan, tu ne vas pas dans ton champ en priant pour avoir une récolte, promettant à la terre que si tu as une bonne récolte, l'année prochaine tu vas semer. Ou bien, mais c'est ça que vous faites spirituellement. Vous dites à Dieu de vous enrichir, et que si vous devenez riche, vous allez le servir. Vous faites foutaise. Dieu a dit quoi? À celui qui est fidèle dans les petites choses, on en confiera de grandes. Ça veut dire quoi? Les gens sont tellement, c'est ce que j'appelle, les gens se sont tellement menti à eux-mêmes, qu'ils ont fini par croire leurs mensonges. Ils se sont tellement dit, en se mentant à eux-mêmes, que s'ils étaient plus riches, ils allaient servir Dieu. Donc ils promettent sincèrement que quand ils vont devenir riches, ils vont faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais c'est un mensonge qu'ils ont fini par croire. La vérité, c'est que quand tu as 1000 francs et il t'est difficile de donner 100 francs à quelqu'un, si tu as 1 million, il te sera très, très, très difficile de donner 100 000. Si tu as 1 milliard, tu ne peux jamais donner 100 millions. Si tu ne peux pas donner 100 francs sur 1000 francs, tu ne peux jamais donner 100 millions sur 1 milliard. Et Dieu le sait. Mais toi, tu t'es tellement menti que tu promets à Dieu en le croyant que si tu étais milliardaire, tu donnerais 100 millions à Dieu. Dieu sait que c'est faux. Si quand tu n'as rien, tu n'as que de l'eau, tu ne peux pas donner de l'eau à ton voisin. Quand tu seras milliardaire, tu ne donneras rien à personne. Et Dieu le sachant, il ne va jamais te bénir sous la promesse que tu vas bénir. Il va exiger que tu bénisses et il va te récompenser par une récolte de ta bénédiction. Et regardez la Bible. Qui vous avez jamais vu a reçu une bénédiction sans avoir semé? Qui? Prenez par exemple les gens comme les veuves avec Élie et Élisée. Il arrive chez une veuve. Dieu veut qu'il bénisse la veuve. Quand il arrive, première chose, il ne lui reste que la farine pour un repas. En période de famine, l'homme de Dieu, sous inspiration de Dieu, lui demande d'utiliser la dernière farine pour préparer afin que lui, l'homme de Dieu, mange. Si même eux doivent mourir de faim, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, on vous demande de donner le peu qu'il vous reste pour survivre. Si elle avait dit non, il n'y aurait jamais eu de miracle. Elle n'a pas la foi. Donner tout ce qui lui restait, étant quasiment prêt donc à mourir pour avoir semé dans la vie d'un serviteur de Dieu. Le résultat, c'est que sa farine ne s'est pas épuisée. Elle en a eu à foison sans arrêt. Celle qui avait des enfants, qui était sur le point d'être vendue, qu'est-ce que le prophète dit? Il te reste quoi de l'huile? Verse-les. Elle a commencé à verser. Ça ne s'arrêtait plus. Si elle avait refusé de gaspiller sa dernière mesure d'huile, aurait-elle été bénie? Salomon, qui a reçu la plus grande onction de sagesse et de prospérité au monde, lisez bien la Bible, il venait de faire un super holocauste à Dieu. Il venait de sacrifier des sacrifices tellement énormes que Dieu a dit, mais petit, quand tu fais tout ça là, moi personne ne me doit rien. Tu ne peux pas faire tout ça, je vais te laisser. Je te paye comment? Salomon est tellement malin, il dit, donne-moi la sagesse. Mais si tu as la sagesse, tu as la sagesse d'obéir à Dieu. Tu as la sagesse de trouver l'argent. Tu as la sagesse de guérir les maladies. Quand tu as la sagesse, tu as tout. Or, aujourd'hui, nous méprisons la sagesse. Nous cherchons les fruits de la sagesse au lieu de chercher la sagesse. Parce que celui qui a la sagesse a tout. Mais celui qui cherche quelque chose ne l'aura pas souvent sans la sagesse. Combien de temps vous passez à cultiver la sagesse? Quand Dieu vous demandera qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous allez demander la sagesse? Vous allez demander un emploi. Vous allez demander de l'argent. Vous allez demander des choses qui, même si on vous les donne, ça ne prendra pas 2 semaines avant que vous vous rendiez compte que ce que vous a donné ne sert à rien. Regardez dans la Bible. Même les gens comme Isaac, il y avait la famine. Isaac voulait fuir, Dieu dit ne fuis pas, je vais te bénir. Dieu n'a pas dit dors, je vais t'envoyer les récoltes. Il dit sème, je vais faire prospérer. Si Isaac disait je suis fatigué, je ne veux pas s'aimer, il y a trop de sécheresse, ne me perds pas du temps, il n'aurait jamais de récolte. Dieu a dit sème, je vais bénir. Tu prends Jacob chez Laban, il ne dormait pas quand Dieu l'a béni. Laban a mis en place un système où il dit je ne vais te donner que les moutons qui sont achetés. Or, humainement, la probabilité est très faible que ce soit le cas. Jacob n'a pas dit « je ne vais rien faire ». Il a voulu travailler. Dieu lui a donné une révélation pour lui dire comment il va faire pour que les moutons achetés soient les plus nombreux. Dieu a béni le travail de Jacob. Il a béni le travail de Moïse. Il a béni le travail d'Abraham. Quand ils voulaient multiplier le pain et les poissons pour nourrir les gens, quand ils ont dit qu'il n'y avait rien à manger, Jésus a dit quoi? Qu'avez-vous? S'il n'avait rien, il n'aurait pas fait de miracle. Qu'avez-vous? Semez ce que vous avez. On n'a que 2 pains et 5 poissons. Donnez-les. Avec ça, Dieu peut multiplier. Ils ont voulu avoir le vin à Canaan. Qu'avez-vous? De l'eau. Mettez-moi l'eau comme semence d'abord. Vous mettez l'eau, moi je me charge de transformer en vin. Mais vous, vous croyez qu'il suffit de prier pour que la bénédiction tombe? Il n'y a aucune bénédiction sans semence. Semence de parole, semence d'obéissance, semence d'argent, semence de temps, semence de sacrifice. La récolte est toujours le produit d'une semence. Or, nous sommes dans une génération qui ne veut rien semer. Si vous ne semez rien, vous pouvez prier 24 heures sur 24 pendant 100 ans, vous ne recevrez rien. Les pierres, quand ils pêchaient toute la nuit, ils n'ont trouvé aucun poisson. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas dit, plouc, voilà votre barque à plein de poissons, partez. Il dit maintenant, recommencez à travailler. Il dit, mais on a pêché toute la nuit, on est fatigué. Semez-moi du travail maintenant là, semez-le. Il peut dire, c'est trop fatigant, ça fait une journée qu'on est fait. Non, quand il dit, sème, tu sèmes. Quand tu sèmes, tu reçois la plus importante des récoltes. Il voulait donner de l'argent pour payer les impôts. Il aurait pu dire, allez, voilà l'argent. Il dit, Pierre, va travailler, va semer. C'est-à-dire, tu es un pêcheur, non? Va m'attraper le premier poisson. Ouvre dans sa bouche. Tu verras la récolte. Dans tous les cas, quand Dieu veut te bénir, il te fait toujours faire un sacrifice. Si tu attends 1 million de Dieu, tu as économisé 100 000. Les 100 000 sont là. C'est à ce moment-là que Dieu va envoyer quelqu'un te demander 100 000. Quelqu'un aura un grand problème. Il va venir te voir. Dieu va permettre qu'il te demande tes 100 000. Ou tu es un cupide égoïste. Tu dis, moi j'ai besoin de 1 million, tu veux prendre le peu que j'ai? Jamais. On te traitera comme tu traites les autres. Dieu vient de recevoir 100 000 francs de bénédiction qui étaient à ta portée à quelqu'un. Dieu te refuse la bénédiction. Point final. C'est des lois de Dieu, ne se négocient pas. Mais si tu donnes les 100 000 en disant, Seigneur, j'ai besoin de plus. Mais ce que moi j'ai peut sauver apparemment une vie. Par la foi, c'est toi qui pourvois tout, je lui donne. Quand tu donneras ces 100 000 là, tu vas recevoir dans les jours qui suivront ton million à toi. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le soumet toujours au test de la semence. C'est systématique. Il n'y a aucun contre-exemple dans la Bible. La semence précède la récolte. Comme je m'y attendais, quand on dit comment être une source de bénédiction pour être béni, vous voyez tous être béni d'abord pour être une source de bénédiction. Ça, c'est la mentalité corrompue du monde qui veut toujours recevoir pour voir après si on va donner. C'est exactement le contraire. On est d'abord une source de bénédiction pour les autres. Et on récolte d'avoir été une bénédiction pour les autres, de la bénédiction pour soi-même. Quand vous êtes en début de carrière, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de crédibilité. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Ce n'est pas le moment d'être orgueilleux. Ce n'est pas le moment de facturer, de dire, dès qu'on dit qu'on va travailler, combien tu me donnes? Quelles sont les conditions? Tu n'es pas en situation de négocier. Tu fais des sacrifices. Tu sèmes pour qu'un jour, tu sois en situation de refuser du travail. Aujourd'hui, moi, on m'appelle pour travailler, je refuse. Je n'ai pas envie, je suis fatigué, ça ne me plaît pas. Mais pour ça, il a fallu que pendant des années, je donne gratuitement beaucoup. Et parce que j'ai donné beaucoup, j'ai aujourd'hui une récolte, je peux choisir ce que je veux récolter. Mais je ne peux pas me comporter au début de ma carrière, quand personne ne me connaît, quand je n'ai aucune expérience, quand je n'ai jamais rien prouvé, comme je le ferai aujourd'hui. Dans la vie, il faut semer pour récolter. On enseigne ça ici il y a quelques semaines. Il y a un jeune, je ne sais pas, il est peut-être là, qui l'a pratiqué immédiatement sans marcher. J'ai dit, si vous êtes au chômage, si vous n'avez rien à faire, faites quelque chose de gratuit pour les autres. Ça ne vous coûte rien. C'est mieux que de dormir à la maison. Les chômeurs, excusez-moi, sont tous des paresseux. Ils ne savent pas qu'ils sont des paresseux, mais ils sont tous des paresseux. Parce qu'ils attendent un emploi pour travailler. Au lieu de se fâcher de travailler. Pourquoi vous attendez qu'on vous demande de travailler? Au lieu de vous fâcher d'aller travailler. Même si on ne vous paye pas, personne ne peut vous empêcher de travailler. Satan vous paralyse. Vous convaincant qu'il faut attendre un contrat de travail. Qui a dit qu'il faut avoir un contrat de travail pour travailler? À moins de ne rien savoir faire, faites ce que vous savez faire pour les autres. Même gratuitement. Comptant sur la loi de la semence et étant sûr que la récolte viendra tôt ou tard. J'ai dit ça ici, un jeune est parti dans son église. Il dit aux jeunes de l'église, bon, moi, je connais un peu les mathématiques, je veux encadrer ceux qui vont à l'examen en mathématiques gratuitement une fois par semaine. Il a témoigné ici, ils l'ont vous rappelé. Les gens se sont réunis. Quasiment au premier cours, un parent d'élève est venu, ça l'a impressionné. Il a négocié avec lui. Finalement, il a eu des opportunités de gagner 500 000 dedans. Parce que le parent voulait en faire une activité, réunir d'autres parents qui allaient payer, il devait avoir sa commission. La première fois où il a simplement voulu donner gratuitement un cours, ça a été monnayé quasiment le double de son salaire. Tu prétends savoir faire des choses. Par exemple, tu es juriste, tu t'ennuies. Il y a plein de veuves, plein d'orphelins, plein de gens qui n'ont pas l'argent, qui sont escroqués tous les jours par les huissiers, par les notaires, par les avocats. Ils traînent dans les tribunaux, ils ont droit à des choses, ils ne peuvent jamais récupérer les choses parce qu'ils ne connaissent rien. On va chez un avocat, 300 000 francs d'ouverture, dossier, il fuit. Toi, tu ne peux pas aller voir des gens comme ça, les aider gratuitement. Tu peux aider gratuitement quelqu'un qui est héritier de plusieurs états, qui n'a pas l'argent pour aller au tribunal, et tu vas t'en sortir sans rien. Mais tant qu'il n'est pas capable de payer frais d'ouverture, dossier, ça ne te concerne pas. Quand tu as un cœur pour Dieu, que tu as le souci de servir les gens, tu sers les gens gratuitement. Dieu passe par le service pour te bénir. Mais si tu attends dans ta maison, comme si quelqu'un a besoin de toi, qu'on vient te dire, viens travailler, je vais te payer tel montant. Et là, tu vas attendre très, très longtemps. Quand tu sais faire quelque chose, va le faire pour quelqu'un qui en a besoin, même gratuitement. Au minimum, ça te permet de mettre dans ton CV que tu as fait telle chose pour telle entreprise. Mais en général, ça ne s'arrêtera pas là. Si tu vas voir quelqu'un qui a l'habitude de gagner 1 million par jour, par ton travail, il en gagne 2, il te demandera, avant que tu lui poses la moindre question, à quelles conditions tu es prêt à venir ici tous les jours. Parce que tu lui as démontré que tu es capable de quelque chose. Vous devez d'abord semer pour récolter. Vous devez d'abord être une source de bénédiction pour espérer en retour être béni. Et il est plus facile de donner que vous ne le pensez. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose en argent pour donner. On a juste besoin de vouloir donner. Et quand vous regardez bien, il y a plus de bonheur à donner, comme le dit la parole de Dieu, qu'à recevoir. Ce n'est pas de la théorie, pendant que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu raconte des bêtises. Mais j'ai compris. Quand on vous donne de l'argent, vous êtes content, mais vous n'êtes pas content. Vous allez voir que dès que vous donnez de l'argent gratuitement à quelqu'un, la personne est contente d'avoir reçu l'argent, mais en même temps, si vous devez regarder dans son cœur, il est un peu frustré. Il devient votre esclave. Parce que la main qui donne est toujours dessus. Si je donne l'argent gratuit, je ne peux pas te dire que tu vas refuser. Tu es obligé de m'appeler, tonton. Je vois des gens, moi, qui m'appellent papa, alors qu'ils ont l'âge de mon grand-père. Je vois des gens qui ont 20 ans plus que moi, qui m'appellent Fofo. Je dis, mais ça m'oblige à me rappeler l'attention de Toron, qui dit, mais à quoi on a bon? Mais il m'a Fofo. Mais c'est visible tous les jours. Dès que tu as l'argent, tu peux donner quelque chose aux gens, ils te traitent comme si tu étais leur père, alors que tu es leur petit frère de loin, parfois même leur enfant. Pourquoi? La main qui donne, quand on te donne quelque chose, on t'achète. Tu es redevable. Et ta marge de manœuvre, ta liberté est réduite. Si tu reçois tous les jours des autres, tu deviens un esclave de tout le monde. C'est pour ça que l'Afrique sera toujours malheureuse à cette allure-là. Vous croyez que ce n'est pas hasard que le monde entier donne des aides au développement tous les jours à l'Afrique? On est en train d'acheter notre liberté. Un mendiant qui reçoit tous les jours des autres ne peut pas faire le malin parler d'indépendance. Il ne faut pas qu'on nous raconte des bêtises. L'indépendance commence dans l'arrêt de la mendicité. Vous voulez faire de l'eau pour boire, vous demandez aux gens. Vous avez besoin d'électricité, vous demandez aux gens. Vous avez faim, vous demandez aux gens, vous dites que vous êtes indépendant. Indépendant de quoi? Vous n'êtes même pas capable de vous nourrir. Il n'y a pas d'indépendance dans la pauvreté. Il n'y a pas d'indépendance dans la pauvreté. Quand quelqu'un te donne l'argent, il fait de toi son esclave. Même si lui ne te demande rien, tu te sens redevable. Et donc, en termes de pain du cœur, tu es perturbé. Mais quand c'est toi qui donnes, tu vas au village ou tu vas dans ton quartier, les petits garçons qui sont là, tu leur donnes 100 francs, ils achètent des bonbons. Oh, faux, tonton, et puis tu vas devenir héros dans le quartier. Toi-même, tu es fier. Toi-même, tu as donné à quelqu'un. Il y a des gens, tu peux aller, les petits, ouais, ils vont courir, ils vont gicler. Parce qu'ils savent que ah, ce tonton-là, ce fourgon, il passe là, c'est 25 francs, il donne, c'est 100 francs, il donne. Tu peux jouer le petit chef de ton quartier. Parce que toi aussi, tu peux donner. Mais quand tu ne donnes rien à personne, il y a des gens dans ce pays qui sont super puissants. Ils n'ont aucun titre, ils n'ont été élus, rien. Mais quand ils passent quelque part, toutes les portes s'ouvrent. Pourquoi? Ils ont le pouvoir de donner. Quand ils passent quelque part, les gens les connaissent. Ils savent que ce type-là, s'il veut sortir, il va donner de l'argent. Moi, des fois, je vais dans des restaurants qui ferment à 23h. Le restaurant est fermé. On me voit arriver à minuit et demi, on m'ouvre la porte. Tous les serveurs m'ouvrent la porte, ils vont à la cuisine, ils redémarrent tout. Je mange avec ma femme. Et je pars à 1h du matin. Et ils sont tous souriants. Mais c'est que quand je pars comme ça, 10 000, ils se partagent entre eux. Ça fait que si moi j'appelle ce restaurant, même à 2h du matin, quelqu'un va venir ouvrir, je vais manger. Dans les stations, partout où je passe, quand vous êtes généreux, quand vous donnez, les gens sont prêts à tout pour vous. La Bible dit que les présents ouvrent les cœurs des hommes. Ce n'est pas une affaire de corruption, c'est une affaire de générosité. Quand vous semez, quand vous bénissez les gens, vous êtes forcément béni en retour. Quand vous travaillez pour le bien des autres, vous êtes forcément béni en retour. Et on est toujours plus heureux quand on donne que quand on reçoit. Et beaucoup de gens se trompent en disant qu'ils n'ont rien à donner. Dieu en a parlé, comme il sait tout. Il dit quelque chose de très grave, écoutez bien. À celui qui n'a rien, on prendra le peu qu'il a. Vous avez entendu? Dieu fait des foutaises avec vous. Il dit, à celui qui n'a rien, on prendra le peu qu'il a. À celui qui a un peu, on en donnera encore plus. Ça veut dire quoi? Dieu, qui ne parle pas pour ne rien dire, dit que si tu n'as rien, on va te prendre ce que tu as. Comment on peut dire que tu n'as rien, on te prend ce que tu as? Ça veut dire que la personne te dit que tu es un menteur quand tu dis que tu n'as rien. Et qu'il va te prouver que tu as quelque chose en te prenant ce que tu as. Et quand il va te prendre ce que tu as, si tu l'avais vraiment oublié, tu réaliseras que tu avais quelque chose. Tu dis, je n'ai rien donné à personne, moi je suis pauvre. Le lendemain matin, tu te réveilles, ton pied droit ne bouge pas. Le pied gauche est enflé. Tu commences à pleurer. Dieu dit, mais tu n'avais rien? Qu'est-ce que tu as perdu? Ah! Non, mais ça, c'est pas ça! Oui, hier, tu pouvais te lever. Tu pensais que c'était rien. Maintenant que je t'ai pris ça, on va voir. Tu restes là, ta main paralysée. Tu commences à faire la diarrhée. Quand Dieu commence à prendre un à un les choses que tu as, tu découvres que tu étais un grand menteur, un imbécile, un ingrat. Quand tu disais que tu n'avais rien. Tout homme a quelque chose. Il a une expérience à partager. Il peut donner un sourire. Il peut donner un mot de réconfort. Il peut prier pour quelqu'un. Il peut consoler quelqu'un. Il peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Il peut aider quelqu'un à faire quelque chose. On a toujours quelque chose qu'on peut partager avec les autres. Toujours quelque chose qu'on peut partager avec les autres. Quand quelqu'un dit qu'il n'a rien, c'est qu'il est tellement hypocrite et ingrat qu'il dit qu'il n'a rien pour qu'on ne lui demande rien. Et dans ce cas, Dieu dit qu'il te prendra le peu que tu as afin de t'aider à réaliser que tu en as. Mais à celui qui dit qu'il a un peu, ça veut dire qu'il dit, même si je n'ai pas beaucoup, le peu que j'ai, je vais certainement le semer. Celui-là va semer le peu. Dieu va le bénir et recevoir encore plus. Alors que celui qui dit qu'il n'a rien, attends, il ne me demande pas de semer. S'il ne sème pas, il n'aura rien. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a rien. Le peu qu'il a là va dans tous les cas partir. C'est comme la femme qui avait l'huile, la femme qui avait la farine. Ils ont dit on a un peu. Ils ont été obligés de le semer. S'ils avaient dit on n'a rien, ils vont cacher ça. Dans tous les cas, ils vont finir de le manger. Et après, ils vont manger, ils vont mourir. Mais en risquant de semer le peu qu'ils avaient, ce peu-là est devenu beaucoup. Ils ont été bénis par cela. Vous devez arrêter de croire qu'il faut être béni pour bénir les autres. C'est exactement le contraire. Il faut bénir les autres pour être béni. Et si nous ramenons ça dans le cadre professionnel, nous avons un grand problème en Afrique et au Bénin en particulier, pour le cas que je connais bien, Et c'est ça qui fait que nos entreprises vont mal. Nos entreprises ne grandissent pas. On ne peut pas citer 10 exemples d'entreprises multinationales en Afrique. Les entreprises africaines sont toujours des petits groupes, familiaux, mais n'atteignent jamais de grande taille capable de dépasser les limites de nos frontières. Pourquoi? Parce que les Africains, pour la plupart, n'ont pas ce qu'on appelle une bonne culture d'entreprise. C'est quoi une entreprise? C'est un groupe de personnes qui vont ensemble, chacun, apporter ce qu'il a, afin que, partant d'un produit qui a une valeur X, on arrive à un résultat Y qui vaut beaucoup plus que X. Une entreprise doit pouvoir prendre 1 franc et sortir quelque chose qui vaut 10 francs, qui vaut 20 francs. Ça veut dire quand les deux, elle a créé 9 francs ou 19 francs, si on prend le cas de 20 francs. Une entreprise doit mobiliser des choses qui valent 10 francs pour livrer à un client quelque chose où le client va donner 100 francs. Cela veut dire que l'entreprise a créé 100 francs moins 10 francs de valeur. Comment l'entreprise crée la valeur? L'entreprise crée la valeur en prenant parfois de l'argent, en prenant parfois des équipements techniques, mais en prenant surtout des hommes, chacun ayant des dons, chacun ayant des capacités, chacun ayant des savoir-faire, des savoir-être. Chacun ne valant rien par lui-même, mais mis ensemble valant beaucoup de choses. Le secret de l'entreprise, c'est la capacité d'un groupe à être plus fort qu'une unité. La Bible dit que là où un vont tuer 1000, deux vont tuer 10 000. Tout est écrit, on n'a rien inventé. La Bible dit, donc Dieu dit, que si un tue 1000, deux tueront 10 000. En tant qu'artisan, si tu peux gagner 1000 francs, quand deux artisans se mettront ensemble pour faire une entreprise, ils gagneront 10 000 francs, ils ne gagneront pas 2000 francs. Quand vous prenez le football par exemple, il y a l'un des meilleurs exemples de travail en équipe. Il y a deux types d'équipes parmi les grandes équipes. Il y a des grandes équipes qui ont 22 internationaux, vraiment les plus grands géants de leur catégorie. Tu as des équipes italiennes, quasiment les meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux, les meilleurs latéraux, les meilleurs gardiens. Tu as une équipe où tu n'as vraiment que 11 stars sur le terrain et même les réservistes sont des stars. On a vu ça parfois avec le Nigeria. Ils alignent même des géants au banc de touche. Quand ils ont 11 stars comme ça, ils perdent presque toujours le match. Et ils sont battus par des équipes et des gens moyens, mais disciplinés, avec un bon entraîneur et un excellent jeu collectif. Si nous prenons un guitariste, un batteur, un pianiste, un trompettiste, et chacun dit « Allez, jouez !» Ils ne se sont pas entendus ceux qui vont jouer. Chacun commence à jouer ce qui lui plaît. Nous allons tous fermer nos oreilles, on va avoir mal à la tête. Ça va être la cacophonie. La combinaison des talents n'a de sens que quand ils se jouent et qu'il y a quelqu'un qui mène. Mais si 10 géants se mettent chacun à faire sur un terrain ce qu'ils veulent, ils vont donner quelque chose de pire que si des enfants d'école de football se mettent à jouer. La somme des grandes individualités ne donne pas une grande équipe. Quelques grandes individualités, ce n'est pas mauvais, mais la force d'une équipe est dans la capacité d'un excellent jeu collectif, bien coordonné, avec des gens qui savent faire ce qu'il y a à faire et qui le font avec discipline, sans elle, inutile. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a des gens qui, quelle que soit leur formation, c'est la preuve, ils sont au chômage. Pris tout seul, ils ne peuvent rien. Tu es un bon juriste, tout seul comme ça, la plupart, ils ne peuvent rien. Bon vendeur, tout seul comme ça, tu ne peux rien. Bon secrétaire, tout seul, tu ne sais à rien. Mais quand on va réunir un secrétaire, un juriste, un ci, un ça, qu'on va leur dire la vision, on va donner à chacun son rôle. En quoi il va aider l'autre, en quoi les autres vont les aider. Quand on va avec une équipe, cette équipe-là peut faire des exploits que chacun d'entre eux ne pourrait jamais faire seul. Chacun apporte sa technicité. Par exemple, sur un terrain de football, si on aligne un seul défenseur, il ne peut rien faire. Mais c'est la combinaison des défenseurs avec le milieu, avec les latéraux, avec les attaquants, avec ci, avec ça. C'est l'ensemble de ça, bien coordonné. Chacun étant à sa place. Il y a par exemple des joueurs, tu les mets au milieu, c'est la catastrophe. Mais dès que tu le mets à l'aile gauche, il devient des génies. Tu le mets à l'aile droite, c'est la catastrophe. L'entraîneur doit savoir ce joueur-là, où est-ce qu'il faut le mettre. Il y a des joueurs qui sont parfaits quand ils sont en duo. Mais si la paire du gars n'est pas là, ils vont mieux le sortir du terrain, il n'est bon à rien. On doit connaître chacun dans ses forces, dans ses faiblesses, dans quelles conditions il est optimum. Et l'entraîneur doit créer un système pour rentabiliser au mieux les ressources qu'il a, tenant compte du terrain, tenant compte du dispositif de l'adversaire. Parfois, on fait un plan de match parce qu'on a prévu que l'adversaire joue d'une certaine manière. Si l'adversaire change ses plans, un bon entraîneur va changer les siens aussi. Parce que tout dispositif est en fonction du terrain et de ce qu'on a. C'est pareil dans une entreprise. Donc, une entreprise, c'est réunir des gens qui individuellement ne sont rien et parfois ne seront jamais rien s'ils étaient seuls, mais les mettre dans une équipe qui est organisée de telle sorte que chacun apportant le peu qu'il sait faire avec discipline, l'entreprise peut faire des exploits qu'aucun d'autre nous n'aurait pu faire. Mais on a beaucoup de mal en Afrique à obtenir des entreprises qui fonctionnent comme ça. Parce que les gens sont égoïstes, prétentieux, orgueilleux. Quand quelqu'un vient dans une entreprise ou parce que la machine globale tourne, il fait des exploits, il pense que c'est parce qu'il est grand. Il s'en va, tu apprends 10 ans après qu'il est toujours au chômage, il n'a rien trouvé de mieux. Parce que quand ils sont dans une entreprise qui tourne bien, ils finissent par penser que c'est eux qui sont grands. Quand ils rencontrent de grands clients, parce qu'ils sont dans une grande entreprise, ils pensent qu'ils valent quelque chose. Dès qu'ils partent, suivent les 5 ans après, ils sont toujours au chômage. Ils sont obligés de te fuir parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la question, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je vois parfois des gens qui ont travaillé à Global, ils me fuient toujours. Mais quand je demande qu'est-ce que tu deviens, eux-mêmes, ils baissent la tête. C'est très facile de critiquer les entreprises. On peut, on doit. Mais quand ils partent là, je n'en connais pas beaucoup qui ont créé des entreprises qui marchent. Il faut respecter la puissance du jeu collectif. Chacun doit avoir l'humilité de savoir qu'il n'est qu'un maillon d'un dispositif. Il doit se débrouiller pour bien jouer son rôle dans le dispositif. Si tu es défenseur, que tu dors, c'est vrai que le gardien est là pour arrêter le ballon, mais tu lui crées des problèmes inutiles. Un gardien peut prendre un but qui ne soit pas sa faute, c'est la faute de sa défense. Et parfois, un gardien peut prendre un but, ce n'est pas la faute de la défense, c'est la faute du milieu de terrain, qui n'a pas pris les dispositions qu'il fallait déjà plus haut. Parfois, ce n'est même pas la faute du milieu de terrain, ça peut être la faute de l'entraîneur, qui voyant que tel joueur était fatigué, ne l'a pas sorti terrain à temps. C'est l'ensemble de tout ça qui fait la performance. Mais pour que ça marche, on doit avoir des gens qui savent jouer leur rôle, qui ont l'humilité de le jouer sans zèle, qui ont l'humilité de respecter les consignes, de rester à la position qu'on leur a donnée, de respecter le travail de leurs coéquipiers et de ne pas tuer le jeu collectif par le jeu individuel. Ça veut dire quoi? Il faut que dans une équipe, chacun doit se battre pour être le meilleur. On est tous contents de dire c'est moi qui ai marqué le but. Mais en même temps, si tu as la balle au pied, tu veux marquer un but, tu es complètement, l'angle est complètement fermé par les défenseurs. Tu vois un de tes coéquipiers qui est seul, libre, personne n'est devant lui. Au lieu de lui passer le ballon pour qu'il marque le but, parce que tu veux que ce soit toi qui marque le but, tu tires dans les défenseurs. C'est de l'imbécilité. Mais beaucoup de joueurs le font. Oui, ah, moi je ne l'aime pas, c'est moi qui vais lui passer le ballon, il va marquer le but, on va dire que c'est lui le buteur. Pour jouer dans une équipe, il faut savoir avoir l'amour et l'humilité qu'il faut pour faire des passes décisives. Quand tu as fini de faire ton travail, tu es par exemple milieu de terrain, tu as fait ton travail, le ballon est dans la défense, ta défense a chaud, tu dois avoir l'humilité de retourner la renforcer. Tu ne dois pas dire, moi j'ai fait mon boulot, maintenant c'est dans la défense. Parce que à la fin de match, pendant le match, on dit, ah tel a déconné, mais à la fin de match, au bout d'une heure de temps, on retient une seule chose, les écureuils ont perdu ou les écureuils ont gagné. On ne veut plus savoir qui a bien joué, qui n'a pas bien joué. Ou vous avez tous perdu, ou vous avez tous gagné. Cela veut dire que quand tu finis de faire ton travail, tu dois t'assurer que les autres fassent le leur et tu dois au besoin les aider à faire le leur. Sinon, le fait que tu aies bien joué ne sert à rien. Si tu es un buteur, tu as marqué 5 buts et le gardien a pris 10 buts. À la fin du match, on se rappellera que tu as marqué 5 buts. Donc, quand tu es un attaquant, en 30 minutes, tu as mis 5 buts. À un moment, il faut pousser l'attaque. Reviens en défense vers ce qu'on ne prenne pas des buts pour neutraliser ton travail. Mais si tu dis, moi, j'ai fait mon boulot, moi, je reste en pointe. 6 points de but, c'est leur problème. 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. Là, c'est comme si tu n'as rien fait. Quand tu as marqué 5 buts. Finalement, 5-10. On va même oublier que tu as marqué 5 buts. Parce que tes buts ne servent à rien si le gardien prend plus de buts que tu n'en as marqué. Mais quand les gens travaillent, ils oublient ça. Donc, pour être une source de bénédiction pour ses collègues, pour son entreprise, pour les clients, il faut se considérer comme quelqu'un qui rend ministère, comme un serviteur. Les gens ont trop tendance en situation professionnelle à se considérer comme, bon, moi j'ai tel diplôme, j'ai telle capacité, je viens faire ce qu'on m'a commandé, prendre mon argent à la fin du mois, le reste ne me concerne pas. Ça ne mène nulle part. C'est ça qui fait les fonctionnaires et la pourriture de notre pays et de notre continent. Des gens lâches, qui n'ont aucun cœur au travail. Ils traitent les choses comme si c'était du papier. On leur donne un projet pour construire une maternité, Dans leur tête, ils ne voient même pas de femme, ils ne voient pas d'enfant. Eux, ils voient un dossier, où est-ce qu'ils peuvent bouffer, où est-ce qu'ils peuvent avoir des commissions. Ils traitent le dossier comme si c'était que du papier. Or, derrière ce dossier, il y a des vies. Derrière ce dossier, il y a des personnes qui font 20 km à pied alors qu'elles sont en travail pour accoucher. Mais quand le fonctionnaire traite ça, il s'en fout de ça. Ne soyez pas comme ça en situation professionnelle. Ne faites pas comme des robots idiots, la tête fermée, les oreilles bouchées, qui travaillent mécaniquement. On m'a dit d'ouvrir la porte, j'ouvre la porte. On t'a dit d'ouvrir la porte, pourquoi? Parce qu'on voulait aérer. S'il commence à pleuvoir, tu as dit, parce qu'on m'a dit d'ouvrir la porte, j'ai laissé la porte ouverte. Non, on t'a dit d'ouvrir la porte, il y avait le soleil. Quand il commence à pleuvoir, demande s'il faut que la porte reste ouverte ou si on ne devrait pas la fermer. Il ne faut pas faire matière de travail du « en veux-tu, en voilà ». Il faut mettre son cœur. Il faut aimer les autres comme soi-même. Et la Bible nous dit que le vrai amour, c'est celui, en fait, qui est décrit dans toute la Bible. Aimer les gens, pardonner les gens. Quand tu en veux à quelqu'un, le lui dire. Quand quelqu'un a des problèmes, prier pour lui, soutenir les uns les autres, se pardonner, se parler, se respecter, chercher le bonheur de l'autre, ne pas convoiter l'autre, ne pas jaloux de l'autre, ne pas méditer de l'autre dans son dos, ne pas dire de quelqu'un derrière lui ce que tu ne peux pas dire devant lui. C'est l'ensemble de ces valeurs qui permettent à un groupe de former une famille, de former une équipe, dans laquelle il va y avoir la joie, de sorte que l'équipe va réussir des exploits que personne seul ne peut réussir. Vous allez voir que dans les compétitions, par exemple en football et consorts, le succès d'une équipe dépend beaucoup de son moral. Quand les gens sont dans une bonne ambiance, une génération qui a grandi ensemble, ils sont tous des amis, ils ont un bon moral, ils ont un bon entraîneur, ils sont avec un bon capitaine. Quand ils ont une ambiance fraternelle, quand ils ont une joie, quand ils ont un enthousiasme collectif, cette équipe-là est mille fois plus forte que la même équipe à des moments où ils ont des problèmes internes, de primes, d'entraîneurs, de fédérations, de voyages et consorts. Cela veut dire que vous devez vous considérer, quand vous travaillez quelque part, comme une famille, comme une équipe, dans laquelle on se soutient, dans laquelle on se protège, dans laquelle on se couvre, dans laquelle on prie les uns pour les autres. Tu fais ton travail, tu te rends compte qu'une direction qui relève de quelqu'un d'autre, mais qui est complémentaire de toi, des problèmes. Prie pour toi, prie pour lui. Quand tu vois qu'un de tes collègues fait quelque chose qui risque de lui créer des problèmes, appelle-le, tu n'as pas besoin de le dire en public, appelle-le et attire son attention, mon frère. Telle chose que je vois là, ça, il se crée des problèmes. Et si tu faisais ça? Ayez de l'amour les uns pour les autres. Ayez de l'amour pour l'entreprise. Ayez de l'amour pour vos clients. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, le vrai perdant quand une entreprise ferme, ce n'est jamais son patron. Hein. Jamais. Quand quelqu'un a été capable de créer une entreprise qui marche, il est toujours capable d'en créer d'autres et il peut vivre de beaucoup de choses. Quand une entreprise ferme, les premiers perdants sont les travailleurs. Toujours. D'ailleurs, il y a deux visions, ce qu'on appelle un peu dans les entreprises. Il y a deux conceptions des choses. On considère que dans une entreprise, on a trois acteurs principaux. Les clients, les actionnaires, ça peut être un seul propriétaire ou tous ceux qui sont des ayants droit au capital, et le personnel. Chaque catégorie dans l'entreprise a des enjeux. Par exemple, si vous prenez les clients, il y a ce qu'on appelle par exemple la Q-validité. C'est-à-dire que quoi? Un client va être content quand il reçoit un produit de qualité. C'est-à-dire un produit qui est conforme à ses attentes. Si quelqu'un veut un vélo pour aller au champ, tu lui donnes une moto Genana. Ce n'est pas de la qualité, il n'a rien à cette moto Genana dans les forêts ou dans les brousses de Chumichumi. Il t'a demandé vélo Peugeot, donne-lui vélo Peugeot. La qualité, ce n'est pas de faire de n'importe quoi pour impressionner des gens, c'est de leur donner de quoi ils ont besoin. Ensuite, le volume. Je veux de l'essence. On m'a dit que quoi, n'est pas bon. Je vais à la station sur la COP, il y a tout le temps pénurie. Même si vous aviez de la qualité, si je ne peux pas avoir en quantité, je viens pour manger du poulet, tu me dis qu'il n'y a plus de poulet, il n'y a qu'une cuisse de poulet. Même si le poulet est doux n'importe comment, je ne vais pas sortir ton restaurant content. Je suis venu pour manger un poulet, tu vas donner une cuisse de poulet. Je veux acheter du tissu, par exemple, pour habiller tout mon orchestre. Tu viens, je trouve un très beau tissu à très bon prix, mais il ne te reste que 2 mètres. Je ne veux pas sortir de ta boutique content. Les gens sont contents quand ils reçoivent un produit de qualité à un volume approprié. Quand l'administration est bien, l'administration c'est quoi? Je viens, j'achète, vous me promettez que je vais avoir ma facture demain. Je vous appelle demain, c'est pas prêt. Après demain, c'est prêt. Pendant 2 mois, je cours après, vous pouvez avoir ma facture. Oui, j'ai eu un bon produit. Oui, j'ai eu un bon prix. Oui, je l'ai eu en quantité. Mais s'il faut souffrir avec vous pour finir les formalités, cela suffit à me dégoûter de vous pour que je ne revienne plus jamais. L'administration, le lieu. Il y a un coût psychologique lié au lieu. Si pour aller chez toi, il faut prendre le taxi pendant 2 jours, aller à Tchoumi-Tchoumi et puis après marcher à pied sur 300 mètres avant d'arriver à ta boutique, ou bien si par exemple comme actuellement avec ce qu'on appelle des autoroutes supposées dans Cotonou là, il y a les voies locales. Tu vois une boutique là quand tu circules. Mais si tu veux aller chez eux, il faut que tu ailles à 2 km, tourner, rechercher par où tu rentres sur la voie latérale, tu la manques, tu finis par dire bon, c'est pas grave. Tu vois la boutique tous les jours, la vitrine te plaît, mais ils sont situés à un lieu où tu ne peux pas accéder à eux. Ou bien ils sont dans un immeuble quelque part au 6e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Et on dit que pour aller client chez eux, il faut arriver et faire 6 étages. Je vais arriver là, je vais regarder, je dis bon, je les aime bien. Si peut-être tu vas voir quelqu'un en bas me servir, on va voir. Mais si c'est moi qui dois monter au 6e étage pour prendre un billet, alors qu'il y a 1000 agents de voyage en Cotonou, le lieu seul suffit pour que je n'arrive pas chez eux. Par exemple, les banques. Les banques font toujours tout comme si les clients sont obligés d'aller chez eux. Pourquoi quand j'ai de l'argent à déposer à la banque, j'ai 10 millions, la banque ne peut pas venir chez eux, chez moi? Pourquoi quand je veux retirer 1 million, une banque ne peut pas créer un service où on m'amène mon million chez moi, en échange d'un chèque chez moi? Imaginez une banque qui crée un service où quand j'ai besoin de l'argent, j'appelle, quelqu'un vient me livrer l'argent dans mon bureau, je lui donne le chèque. Il ne va pas battre toutes les autres banques le temps qu'il fasse la même chose. Pourquoi personne ne le fait? Parce que personne ne veut être créatif. Tout le monde s'enferme dans les mêmes règles. Il y a tellement de choses à faire quand on tient compte du fait que le client a un enjeu sur le lieu. On doit lui rendre des choses le plus accessibles possible. Si je veux vendre de la crème glacée, je vais à Parakoubi en Atitingou en décembre, en plein matin à 7h. Je dis crème glacée, crème glacée, crème glacée. Qui va acheter? Mais si au mois de mars, à Ouaga, sous le soleil où il y a 50 degrés, je propose crème glacée à quelqu'un, je vais finir ma glacière en 10 minutes. Le lieu détermine l'intérêt de l'offre. Beaucoup de gens offrent des choses au mauvais lieu. Ensuite, les interrelations. Je viens chez vous, bonne qualité, bon volume, bonne administration, un bon endroit, mais vous n'avez que des employés arrogants, en train de ronchonner, ils mangent du pâté devant moi, ils s'insultent entre eux, ils me manquent de respect. J'ai des jeunes hommes qui me tutoient comme si j'étais leur copine, alors que je suis capable d'être leur mère, qui dit, madame, si vous n'êtes pas content, il faut partir. Moi, je suis déjà fatigué dans tous les cas pour aujourd'hui, on va se voir demain. Quand les gens ont des interrelations idiotes comme ça, quel que soit ce que tu vends, tes clients ne reviendront pas. La relation entre les gens et le client est très importante. Mais tu peux ne rien avoir. Si le client est chéri, rien qu'à cause de cette relation, il va patienter le temps que vous lui trouviez ce qu'il faut. Vous devez soigner les interrelations. Le temps. Tout le monde est pressé. Si je dois venir chez vous attendre 3 heures de temps avant qu'on me réponde pour répondre à 2 questions, ce n'est pas sûr que je viendrai souvent chez vous. Si ce que les autres m'offrent en 2 jours, il vous faut 3 mois pour me l'offrir, même si vous avez les meilleurs produits du monde, il n'y a pas beaucoup de chances que je vienne chez vous. Quel temps ça prend pour me servir? Quel temps je dois attendre chez vous? Quel temps je dois attendre pour avoir une information? Le temps doit être minimisé pour le client. Vous avez les questions d'économie. Économie pour ne pas dire prix. Ça inclut le prix, mais ça va au-delà du prix. Je donne un exemple. Quand vous prenez par exemple une voiture, il y a une différence entre le prix d'une voiture et le prix de revient d'une voiture. Je donne un exemple. Quand vous prenez par exemple les Toyota, une voiture Toyota au Bénin, en venue de France, coûte plus cher qu'une Mercedes. Ce qui est anormal. À l'origine, au prix d'usine, une Mercedes coûte beaucoup plus cher qu'une Toyota. Mais au Bénin, une Toyota coûte plus cher qu'une Mercedes. Pourquoi? Parce que les clients estiment que la Toyota coûte cher, mais elle revient moins cher. Parce que ces pièces coûtent 1000 francs, 2000 francs, alors que tu ne peux pas réparer une Mercedes à moins de 50, 1100, 1200, 1300, 1000, 1 million. Qu'elle consomme beaucoup moins, alors qu'une Mercedes consomme beaucoup. Donc, même si une Toyota va coûter 10 millions, pour que la voiture équivalente à Mercedes soit à 5 millions, beaucoup de clients vont préférer mettre 10 millions dans leur Toyota parce qu'ils estiment que sur la durée de vie totale de la voiture, c'est plus rentable d'avoir une Toyota que d'avoir une Mercedes. À moins, bien sûr, que tu veux une voiture de luxe, une voiture de confort et que tu aies les moyens de t'offrir un véhicule qui, quand il va chez le mécanicien, te coûte 100 000 francs, te coûte 200 000 francs. pendant que le mécanicien sur ta route va te prendre 3000 francs, 4000 francs, ta voiture est déjà réparée. Donc, le client veut quelque chose qui lui revienne moins cher. Il ne veut pas juste regarder le prix. Il veut voir globalement quel est le coût de revient. Et vous devez tenir compte de cela. Est-ce que notre client réalise que globalement, on est plus intéressant pour lui? Enfin, il y a les questions d'environnement. C'est vrai que dans les pays développés, c'est beaucoup plus important qu'ici. Mais ça commence aussi. Le cadre dans lequel vous recevez les gens, s'il fait trop chaud, si c'est désagréable, si ça sent la fumée, si tout le monde est là, qu'ils n'ont pas de discrétion, toutes les questions de l'environnement dans lequel le client est satisfait vont déterminer sa satisfaction ou non. Donc, dans une entreprise, les clients seront contents si qualité, volume, administration, lieu, interrelation, temps, économie et environnement sont maximisés à leur profit. La défaillance d'un seul critère peut suffire à fâcher vos clients qui s'en aillent. Quand je prends le cas des actionnaires, ils ne veulent qu'une seule chose, les profits. En réalité, un actionnaire s'en fout de tout ce qui se passe dans l'entreprise, sauf du profit. C'est comme un entraîneur de football. L'entraîneur a fait un plan de match. Il a mis un dispositif. Il vous a dit ce que chacun doit faire. Si vous commencez le match, qu'aucun joueur ne respecte ses consignes, mais que vous menez 7-0, l'entraîneur ne va pas se fatiguer à vous appeler à l'ordre. Il s'en fout. Jouez comme vous voulez. Vous menez le jeu, il est assis, vous avez marqué 7-0. Celui qui devait être en défense se retrouve en attaque. Le gardien sort, il va narguer le gardien adverse. Vous êtes en train de mener 7-0, l'entraîneur ne réagira même pas. Mais si vous êtes mené 3-0 et que quelqu'un ne respecte pas une consigne de l'entraîneur, il se lève de son banc de touche, il commence à crier, vociférer, parce que vous êtes en train de perdre, vous êtes en train de détruire les choses, il n'y a pas de raison qu'on fasse n'importe quoi. C'est exactement pareil pour un actionnaire. Si vous dormez tous dans la société, vous giflez tous les clients du matin au soir, et tous les ans vous lui apportez 10 milliards de profits, il s'en fout, continuer. Mais si vous devez faire du n'importe quoi, pour qu'au moment des profits vous lui dites qu'il y a des pertes et qu'il doit mettre encore son argent dans la société, il va commencer à regarder au millimètre près qu'est-ce que vous foutez. Et il va commencer à contrôler, il va commencer à auditer, il va commencer à virer des directeurs, il va commencer à réduire des choses. Il va commencer à se mêler de votre travail parce que ce qui lui veut n'est pas là. Un actionnaire veut le rendement. Tant que le rendement est garanti, il vous fout la paix. Mais en règle générale, le rendement n'est jamais garanti quand on fait n'importe quoi. Donc les actionnaires vont souvent être obligés de se mêler du travail. Que veut le personnel? Le personnel veut de la responsabilité. Il veut des opportunités. Il veut une bonne rémunération. Il veut être motivé. Il veut parfois de la sécurité. Quoi encore? Il veut un bon cadre de travail. Ainsi de suite. Il veut un bon management. Voilà le genre de choses que veut un personnel. Alors, à l'époque de la révolution industrielle, avec les communistes et consorts, avec les Karl Marx et consorts, ils avaient développé une théorie, en fait futile, mais qui a marché pendant un certain temps, de la lutte des classes. C'est quoi la théorie de la lutte des classes? C'est la théorie selon laquelle, quand le client apporte 100 francs dans l'entreprise, les actionnaires, selon eux, se battent pour prendre 80 francs, laissant 20 francs seulement aux employés. Et selon eux, il y aurait une perpétuelle guerre entre le personnel et les actionnaires pour savoir qui se partagerait la plus grande part des 100 francs. Et ils appellent ça la lutte des classes avec le prolétariat, bref, tous les discours idiots qu'ils ont fait pendant longtemps. Dieu merci, la réalité a prouvé que c'est faux. Surtout dans un monde mondialisé avec la concurrence, si dans une entreprise, les actionnaires et le personnel se battent, le client ne va même pas amener 100 francs jusqu'à ce qu'il le partage. Quand dans une entreprise, les actionnaires et le personnel ne parlent pas le même langage, l'entreprise n'est pas capable de satisfaire les clients vont mettre leur argent ailleurs. Point final. Il n'y a même pas d'argent jusqu'à ce qu'on fasse la lutte des classes. Cela veut dire que la réalité aujourd'hui, ils l'ont compris, est plutôt la suivante. C'est d'abord l'actionnaire qui va mettre, par exemple, 10 francs comme investissement dans l'entreprise. J'investis 10 francs dans l'entreprise, le personnel doit travailler. Si le personnel travaille bien et fournit bien tous les critères qu'on a mis là au client, le client est tellement content qu'il va, par exemple, payer 100 francs. Cela veut dire que l'actionnaire a sorti 10 francs Et il reçoit 90 francs à la fin de l'année. L'actionnaire n'est pas un philanthrope. J'ai mis 10 francs dans quelque chose. Ça m'a apporté 90 francs. Il dit, ah bon? Ça veut dire que si je mettais 200 francs dedans, j'aurais déjà eu 180 francs. Bon, c'est pas grave. L'année qui arrive là, comme je suis pressé de gagner l'argent, je vais risquer 30 francs. Donc l'année qui suit, au lieu de n'investir que 10 francs dans la société, l'actionnaire leur met 30 francs. Il prend une partie de ses 90 francs. Il dit 60 francs, c'est déjà pas mal comme profit. Et il remet 30 francs. Une augmentation du capital veut dire des meilleurs bureaux, des climatiseurs, des meilleurs salaires, des voitures de fonction, de meilleurs matériels de travail. Il investit pour améliorer les conditions, en tout cas globalement, de fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'il aime le personnel, hein. C'est parce qu'il a vu qu'il a mis 10 francs, ça a apporté 90 francs. Donc comme il est pressé de gagner l'argent, il se dit, mais si je mets 30 francs, ça peut rapporter 90 francs fois 3 au moins, ça fait 270 francs. Quand même, c'est rentable. Donc, il met 30 francs. Soit, recevant les 30 francs, le personnel travaille encore mieux. Et dans ce cas, le client, par exemple, va dire, bon, je suis tellement content, je donne 500 francs. Le gars se dit, ah, cette affaire-là devient très intéressante, hein. J'ai donné 30 francs, j'ai gagné 500 francs. Ça fait 497 francs de profit. Cette affaire-là, laissant les 30 francs, je passe directement à 1000 francs d'investissement dans mon entreprise. Et on a une roue. L'actionnaire mettra de plus en plus d'argent tant que, on appelle ça l'utilité marginale croissante. Tant que les collaborateurs vont faire en sorte qu'un investissement supplémentaire corresponde proportionnellement à une satisfaction supplémentaire des clients et donc à un accroissement proportionnel des actionnaires, les actionnaires seront toujours prêts à améliorer de jour en jour les conditions des travailleurs. Mais si le gars se rend compte qu'il a mis 10 francs, ça lui a apporté 90 francs, il met 30 francs, ça apporte 100 francs. Il dit, ah, j'ai mis 10 francs, ça m'a apporté 90 francs. Je les amène à 30 francs, c'est 100 francs juste. Il va revenir à 20 francs. Parce que la pauvre n'est pas faite que mettre beaucoup d'argent rentable. Il met 50 francs, ça apporte 150 francs. Quand l'actionnaire fait les ratios, il se dit, mais il vaut mieux les laisser à 10 francs. Parce que toute augmentation du capital ne m'apporte rien de plus. Autant faire autre chose de mon argent. L'entreprise va commencer à être délaissée, va être limitée. Non pas parce que l'actionnaire ne veut pas le faire grandir, mais parce que les collaborateurs sont tellement mauvais que l'augmentation des moyens mis à leur disposition ne rapporte pas plus. Or, l'actionnaire ne connaissant que les profits, quand il n'a pas plus d'intérêt, vous allez voir, écoutez RFI et consort. Tous les jours, on voit de grandes sociétés occidentales, ils font des milliards de profits et décident de vendre la société et de la détruire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à avoir, par exemple, 1 milliard de profits, on leur a donné 500 millions. Toi, tu as dit 500 millions d'euros, il veut fermer. Mais le gars dit, avec les milliards que j'ai, ma société me rapporte 500 millions. Si j'avais placé ça en bourse, j'aurais déjà eu 1 milliard. Pourquoi je laisse ça? Bradez-moi tout ça. On met 2000 personnes à la rue. Parce que l'actionnaire se dit, mon argent en dormant aurait pu me rapporter plus que de le leur donner. Si je dois leur donner mon argent pour ne pas gagner plus que si je le mettais à la banque, ce n'est pas la peine. Et Jésus dit ça dans la Bible, la parabole des talents. Quelqu'un a reçu un talent, un autre talent a reçu 3, un autre talent a reçu 5, je crois. Mais 1, 2, 3, je ne me rappelle plus. Ceux qui ont reçu 3 et 5 ont fait chacun 100% de profit. Ils ont gagné le même nombre de talents. Donc le maître était heureux. Il a dit, je vous en donnerai encore plus à gérer. Mais celui qui a reçu un talent, il n'a rien fait. Il n'a rien fructifié. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais même si tu n'es pas assez intelligent pour le fructifier, tu aurais au moins pu le mettre à la banque et que cela me génère des intérêts. Parce que Jésus parlait des affaires, il dit les affaires de mon père. Il donnait la métaphore qu'un maître s'en fout de ce que tu fais de son argent. Si tu n'es capable de rien en faire, alors laisse-le au moins à la banque. Si la banque a un taux d'intérêt, par exemple, de 12% sur les prêts, j'investis 100 millions dans une société. Si mes employés ne sont pas capables de faire en sorte que j'ai au moins 120 millions à la fin de l'année, il vaut mieux les virer, déposer mon argent à la banque, dormir à la maison. Avec mes intérêts de la banque, je peux vivre. Si par exemple quelqu'un a 100 millions, il fait un prêt, ça lui rapporte 12 millions l'année, ça fait 1 million par mois. Sans avoir aucun employé, avec ces 12 millions-là, il peut vivre. Ou bien, pourquoi quelqu'un va se fatiguer à gérer les employés, CNSS, sécurité, syndicat, ordinateur, électricité, impôts, pour gagner moins que ce que la banque lui aurait donné si son argent dort là-bas? Mais les employeurs ne pensent jamais à ça. Et c'est pour ça que vous êtes au chômage. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre le paradigme des patrons. Un patron n'est pas un philanthrope. Il veut gagner de l'argent. Il est prêt à faire votre bonheur, à vous donner des salaires, à vous donner des avantages, à vous donner de la motivation. À condition que plus ça vient, plus vous recevez des avantages, plus vous devez vous débrouiller pour que les revenus grossissent. Si quand votre patron double votre salaire, le revenu triple, il va tripler votre salaire. Si le revenu est encore triplé, il va multiplier votre salaire par 10. Si plus il augmente vos avantages, plus il devient riche, Un jour, il peut même multiplier votre salaire par 1000, il s'en fout. Parce que vous êtes un investissement rentable. Mais si on vous paye des salaires, vous ne foutez rien de bien. Le gars n'a que des charges, il ne gagne rien. Il vous vire tous. Il gagnera plus d'argent en faisant dormir son argent à la banque qu'en se fatiguant à gérer des gens. Et c'est pour ça que vous allez voir, par les temps qui courent, il y a beaucoup de chômage. Parce que les entreprises béninoises n'ont pas le courage de recruter. Les gens virent plutôt leurs collaborateurs parce qu'ils se rendent compte que ce que la présence de ces collaborateurs rapporte ne justifie pas ce que ça coûte. Ils préfèrent prendre leur argent, acheter des terrains, construire des immeubles, mettre en location, avoir des DAT à la banque, mettre leur argent en bourse, mais ne pas se fatiguer à créer des entreprises. Le chômage est dû à l'incompétence, à la mauvaise foi, à la paresse des collaborateurs qui ne sont pas capables de garantir à ceux qui mettent leur argent des résultats. Donc, en ne travaillant pas, le salarié pense au début qu'il se moque du patron. Mais il ne sait pas qu'à moyen terme, c'est lui qui est le grand perdant. Parce que passer un exercice, quand le gars fera le bilan, il peut dire, bon, je supprime tel poste. Et lui, ça ne change pas grand-chose à sa vie. Les employeurs aiment bien dire qu'on est en train de créer des résultats. Mais est-ce que les salaires sont en train? Les salaires viennent toujours en avion, mais les résultats sont toujours en train. À un moment, il faut aussi un parallélisme de forme. Si vous voulez que les salaires viennent en avion, il faudra que les résultats soient en avion. Et si le travail doit être en train, il faut accepter que les revenus soient en train aussi, ou à pied. Mais le problème, c'est que tous les employeurs veulent que les salaires soient en avion, mais veulent que le travail soit en train ou à vélo. Si quelqu'un est capable de faire en sorte que quelqu'un qui met 10 francs sur lui récupère avec de l'intérêt, il aura toujours de l'emploi. Qui que vous soyez, si vous êtes capable d'aller voir un patron, écoutez, monsieur Guidibi, moi, mettez tel montant à ma disposition, je vous garantis que je vous apporte 3 fois ça dans 2 mois, et que vous êtes capable de le faire, vous ne pouvez jamais mourir de faim. Surtout quand ce n'est pas des grands montants, le gars, ça ne lui coûte rien. C'est un menu dépense pour lui. Il vous donne. Mais il y a des gens qui me viennent me voir pour des choses. Je n'y crois pas trop, mais à 100 000 francs, je leur donne. Essayez. Même s'il vole, quand il a fini de bouffer les 100 000 francs, il ne voudra plus jamais me voir, non? Non. Je lui donne. Mais tu, des fois, tu donnes à quelqu'un, il te rapporte effectivement le triple. Tu dis, ah, ça devient sérieux. Prends 200, je vais voir. Il te rapporte 600. Tu dis, voilà quelqu'un avec qui on peut construire. Si vous savez vraiment faire quelque chose, vous devez être capable de vous mettre dans des situations où, quand on investit sur vous, vous devez rapporter et démontrer que vous avez rapporté plus. Si vous avez ça, c'est vous qui allez choisir vos employeurs. Mais peu de gens ont ça. Et c'est ça qu'il faut développer. Et le problème, c'est que notre système éducatif ne nous apprend pas ça. Donc, quand vous sortez de l'université, vous ne savez pas rapporter de l'argent. Cela veut dire que vous devez être doublement humble. Parce que la plupart des employeurs que nous recrutons au Bénin devraient être appelés des apprentis. On les paye pour les former. La réalité, c'est que dès qu'un apprenti se sent capable, il démissionne pour aller à son propre compte. Ce qui est légitime. Donc, en réalité, la plupart des gens qui sont salariés sont les gens qui savent au fond d'eux-mêmes que seuls ils ne gagneraient pas de l'argent. Que seuls ils ne sont pas capables de faire. Ils vont apprendre aux frais des autres, ce qui est normal dans la vie. Mais ils se font payer pour apprendre et ils font les malins en plus. Alors que normalement, c'est l'apprenti qui paye son maître en apprentissage. Parce que quand vous savez rapporter de l'argent aux gens, en général, vous ne voulez pas le rapporter pour les gens, vous voulez le rapporter pour vous-même. Et c'est pour ça que quand vous avez la chance d'être dans une entreprise où non seulement on vous forme, où non seulement vous pouvez créer des résultats, mais on vous permet de gagner aussi une proportion des résultats que vous créez, donc on fait de vous comme des actionnaires, vous avez du bien béni sur lequel il faut prendre un soin particulier. Alors, je vais voir si dans les questions qu'il y avait au tableau, il y en a aucun n'a pas encore répondu. Une personne bénie, c'est une personne qui a les ingrédients de la grâce. La santé, la joie, la paix, la prospérité. C'est-à-dire, il a ce qu'il faut quand il le faut. C'est une personne qui a de la joie. C'est une personne qui sait donner. Une personne heureuse doit être une personne généreuse. Il n'y a personne d'heureux qui ne soit pas généreux avec les autres. Quelqu'un d'heureux est toujours généreux avec les autres. Quelqu'un d'heureux est heureux de la vie qu'il a. Quelqu'un d'heureux est toujours en train de rendre grâce, en train de témoigner. D'accord? Quelle sorte de bénédiction peut-on apporter à quelqu'un? On l'a déjà vu. Comment dégager des énergies positives pour attirer des bienfaits? On l'a déjà vu. Servir, être utile, faire quelque chose qui apporte quelque chose aux autres. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on soit une source de bénédiction? J'en ai déjà parlé. L'orgueil, l'incompétence, le manque de patience pour apprendre à faire. Parce que l'université ne nous apprend pas à faire des choses. L'université nous apprend des choses. L'université donne le savoir. Or, le savoir ne se vend pas. Sinon, tous les professeurs seraient riches. Et les vieux de nos villages seraient riches. Personne n'achète le savoir. On achète le savoir-faire. On achète le savoir-être. En réalité, on achète le savoir-faire. Mais pour vendre le savoir-faire, il faut savoir-être. Mais l'université n'apprend pas de savoir-faire et n'apprend pas à être. Donc, n'apprend que des choses inutiles. Si vous voulez que ce que vous avez appris à l'université vous serve, c'est que vous prenez le savoir de l'université et vous l'opérationnalisez en savoir-faire. Cela suppose un apprentissage. La Bible dit que celui qui s'occupe bien des affaires de son maître, on lui donnera ses propres affaires. Regardez dans notre pays. Les gens qui sont apprentis, artisans, ouvriers, quand on les libère, ils ne sont jamais au chômage. Je ne connais pas d'ouvriers libérés au chômage. D'abord parce qu'il sait faire ce dont l'a diplômé, ce qui n'est pas le cas d'un diplômé universitaire. Qu'il ait les moyens d'avoir un capital ou pas, il peut immédiatement faire quelque chose, on va le payer. Même si ce n'est pas beaucoup, on va le payer, il ne va pas mourir de faim. Quand un diplômé sort, il n'y a rien qu'il peut faire pour avoir l'argent. Il ne sait rien faire. Il a lu beaucoup de livres, il a lu côté par cœur, il a fait des dictées par cœur, on lui a dicté, oui, la révolution industrielle, c'est point virgule, etc. virgule. Et il a fait ça pendant des années, il ne sait rien faire. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est comme ça dans toutes les universités. C'est la théorie de l'université. Quand vous prenez les pays comme le Canada, il n'y a pas 1% des gens qui vont à l'université. Ils savent que c'est inutile. L'université, à la base, c'est un luxe pour les enfants de bourgeois qui veulent perdre du temps à l'université pour ne pas entrer dans la vie active. Ils savent que même s'ils sortent de l'université à 40 ans, son papa est milliardaire, un jour il va gérer l'entreprise familiale. L'université n'est pas une affaire de pauvres. C'est une bêtise qu'on a au Bénin avec des universités qu'on crée dans tous les villages. La plupart des grands patrons, des grands signes que vous voyez dans le monde là, n'ont pas fait d'université. Bush n'a pas fait d'université. Les Rockefeller n'ont pas fait d'université. Tous les grands hommes d'affaires là n'ont pas fait d'université. Et quand vous prenez au Bénin, les gens les plus riches n'ont même pas été à l'école. Nous qui avons été à l'école, on est les plus bêtes du Bénin, on est les plus pauvres. On voit ça, non? Si vous citez les 10 plus riches béninois, aucun d'entre eux n'a été à l'école. L'école n'apprend pas à réussir. C'est bon d'y aller pour faire le malin. C'est bon pour dire, moi, j'ai le diplôme. C'est bon pour apprendre à lire, à compter. Mais il faut être bête pour compter sur l'université. Il n'y a rien de bon là-bas. 99% des diplômés sont chômeurs depuis 30 ans. Donc, la norme du diplôme, c'est le chômage. Et ceux qui travaillent, regardez bien, c'est soit à cause de leur foi, soit à cause des relations de leurs parents, soit à cause parce qu'ils ont été dynamiques dans des associations, ils ont appris à faire des choses. Mais le diplôme brut, là, ça fabrique des émigrants, rien d'autre. Beaucoup d'émigrants ont des doctorats. Ou bien, mais les mamans veulent que leurs enfants aillent à l'école. Ils viennent à l'université, ils ont le doctorat, ils ont le thèse. On mange la thèse. Et l'université donne aux gens de l'orgueil, mais qui n'est fondée que sur rien. Le pays est dirigé par des gens qui ont 4 doctorats. Regardez comment ça se passe. On veut appeler les gens du docteur, 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 alors qu'ils ne sont une personne. Tout meurt dans sa mère, on dit docteur, docteur, docteur. Et tout le monde veut être docteur. L'orgueil précède la déchéance. Il faut avoir l'humilité quand on sort de l'université de dire, je dépose maintenant mes diplômes. Moi, ils sont quelque part dans une cantine chez ma maman, papa. J'espère que les souris n'ont pas déjà bouffé ça. Ça ne sert à rien. Quand moi, quelqu'un me demande le diplôme, je dis, si tu n'as rien d'autre à faire, laisse-moi aller faire autre chose. Et tout le monde va encore m'appeler. On ne t'appelle pas pour tes diplômes. On t'appelle pour ce que tu sais faire, pour ce que tu peux donner aux autres. Quand tu as quelque chose que tu peux donner aux autres, c'est toi qui fixes les règles, ce n'est pas eux qui les fixent. Mais pour avoir quelque chose à donner aux autres, il faut une pratique. Une pratique, c'est forcément un apprentissage. Regardez, quand tu prends les grands prophètes, les Élie, les Élisée, ils ont tous eu de grands disciples. Josué. Josué est resté dans l'ombre de Moïse pendant toute la vie de Moïse, apprenant humblement et patiemment. Quand Moïse est mort, Josué a été naturellement le successeur. Vous prenez Élisée, avec Élie, c'est pareil. Mais à l'opposé, vous avez des collaborateurs comme les Judas, comme les Géasi, tellement cupides qu'ils sont brisés. Mais quand vous êtes capable de rester dans l'ombre d'un maître, d'apprendre humblement, vous récoltez ce que lui a passé sa vie à savoir, vous l'apprenez en quelques années. Quand vous avez le champ et que vous décollez, vous ne valez pas les gens de votre génération. Vous partez avec tout le bagage de votre maître, plus le vôtre. Et c'est ça qui fait que les gens qui sont dans l'apprentissage ne sont jamais chômeurs. Mais tous les diplômés sont chômeurs parce qu'ils n'apprennent rien. Par exemple, en marketing, ce que je connais, aucun professeur de marketing au Bénin n'a jamais rien vendu. Les cours de marketing sont donnés par des gens qui ne sont même pas capables de vendre un bonbon. Si je m'en dis, dites-le moi. Ce n'est pas en faisant des photocopies de contenu qu'on fait du marketing. Quelqu'un qui n'a jamais rien vendu ne peut pas apprendre à quelqu'un à vendre. Il faut être forgeron pour être maître forgeron. Le gars n'a jamais fait quelque chose avec du fer. Tu dis qu'il est ton maître en forge et te donne des livres, il te fait des dictées au tableau, tu copies, tu fais des interrogatoires, tu dis que tu as un diplôme marketing. Les gens ne sont même pas capables de se vendre. Les meilleurs marketing sont recrutés par les entreprises. Tous ceux que personne ne veut parfois voir qui sont incompétents deviennent professeurs, on les met dans les universités, ils donnent des cours et on diplôme des étudiants. Quand on veut faire une récolte, on trouve du maïs, il y en a de pourri, il y en a de bon. Le bon, on le mange. Le pourri, on dit que c'est ça qu'on va remettre en terre. L'année prochaine, on va voir quoi comme récolte. C'est ça l'un des problèmes du système éducatif béninois aujourd'hui. Beaucoup de gens sont enseignants parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Parce qu'ils n'ont pas pu être pris par le système des entreprises, parce qu'ils ne sont pas assez bons, on les laisse dans les écoles. Les écoles acceptent n'importe quoi. Et on prend les gens les plus mauvais pour former les jeunes. Ils payent des frais de scolarité, 300 000, 500 000, pour avoir des professeurs qui n'ont jamais fait ce qu'on leur apprend. Et on dit que c'est n'est ça là. Quand quelqu'un qui n'a jamais vendu un biscuit, il veut former des gens à la vente. Conclusion, les diplômés en marketing, action commerciale, ne sont même pas capables de se vendre eux-mêmes. Ils sont les plus chômeurs. Comment on peut faire marketing et ne pas pouvoir se vendre soi-même? Vous dites que votre métier fait de vendre et vous ne pouvez pas vous vendre vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce n'est pas votre faute. Ceux qui vous ont appris le marketing n'ont jamais rien vendu. Peut-on perdre sa bénédiction? Oui, la bénédiction n'est pas une affaire de destinée éternelle. Si vous semez bien, vous récoltez bien. Vous semez mal, vous récoltez mal. Donc, il y a toujours un lien de cause à effet entre ce qu'on récolte et ce qu'on a semé. Qui bénit dans la vie professionnelle? Tout le monde. Bénit vos clients, bénit vos collègues, bénit votre patron, bénit votre entreprise, bénit même votre famille. Quand vous travaillez bien, vous allez avoir des ressources. D'abord, vous allez faire la fierté de vos enfants, vous allez faire la fierté de votre famille, mais vous allez avoir des ressources pour faire le bien de vos proches. Votre épouse va être heureuse si elle a un mari qui prospère dans son entreprise. Mais si vous n'êtes même pas capable de vous en sortir professionnellement, vous devenez un fardeau pour vos parents. Il y a des gens qui ont 40 ans, ils sont toujours chez le papa et leur maman. Et leur maman pleure tous les jours pour voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Quand vous n'êtes pas une source de bénédiction professionnelle pour les gens, vous devenez un fardeau pour les gens que vous devriez bénir. Vous avez un âge où vous devriez faire du bien à vos parents et vous êtes devenu une charge pour vos parents. Votre femme est obligée de se réveiller, de courir pour travailler, pour vous nourrir. Je connais plein de gens, ils sont des hommes, ils se réveillent le matin en beau basin, ils se mettent sous les arbres, ils jouent à guille, ils jouent ludo, ils bavardent toute la journée, ils fument et le soir, leur femme revient du marché avec de l'argent. Et disent que c'est la belle vie. Quand on n'est pas capable de se couper de sa famille, on ne se marie pas. Doit-on forcément être béni avant d'être une source de bénédiction? Non, ça devrait être plutôt l'inverse. Trait d'une vraie bénédiction, on en a déjà parlé. Donc, en résumé, vivez votre vie professionnelle comme un ministère, comme un terrain de semence, comme un terrain où par humilité vous servez pour apprendre. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions. Quand vous êtes limité, demandez comment vous êtes. Mais ayez le cœur, ayez l'attitude, ayez la disponibilité. Rendez-vous indispensable. Le secret d'une grande carrière, c'est avec l'humilité, le caractère indispensable. Si vous êtes un ouvrier, vous êtes un collaborateur, vous êtes un technicien, quand vous êtes en congé une semaine, votre téléphone sonne 10 fois par jour. Parce qu'on ne peut pas se passer de vous. Vous pouvez aller dormir, vous êtes bon. Mais il y a des gens qui partent en congé un mois, on ne les appelle pas une fois. Ça, il faut t'inquiéter parce que quand les gens vont se rendre compte que tu as été en congé un mois, tu es revenu, personne n'a réalisé que tu étais absent, ils vont te virer bientôt parce qu'ils disent que tu ne servais à rien. On est d'accord? Mais combien de gens ne vont pas en vacances ou en congé 3 mois et on oublie même qu'ils étaient en congé? Quand ils vont dire, ah, à collègue ou à ouais, ça veut dire que vraiment, ils vont me rester là où tu étais, tu n'étais utile à rien. Il faut être indispensable par la qualité, par la quantité, par la disponibilité. Faites toujours en sorte qu'on se dise, ça, voilà quelqu'un de bien. Ah, voilà quelqu'un de jeune et d'ambitieux. Voilà quelqu'un d'honnête. Voilà quelqu'un d'humble. Voilà quelqu'un qui fonce. Voilà quelqu'un qui est courageux. Vous devez avoir des valeurs qui font qu'on a du mal à se passer de vous. C'est ça qui va vous élever dans la vie. Des questions? Allons-y.
Oui. Bonsoir, monsieur.
Oui.
On m'appelle Fabrice Adonon. J'ai 2 questions. La première question est celle-ci. Sur quelle base ou sur quel signe peut-on savoir que juste après les humiliations ou les difficultés, c'est la gloire qui précédera?
Ok, alors, ce n'est pas une affaire de signe. Vous savez, il y a des choses qui sont des lois. Je sais que si je mets une graine en terre, qu'elle est arrosée, elle va donner du maïs. Il n'y a pas de signe pour le savoir, c'est une loi de la vie. Je sais que si je mets la glace au feu, ça va fondre. Et que si je mets de l'eau au congélateur, ça va se congeler, ça va devenir dur. C'est des lois de la vie. Une de ces lois, c'est que quelqu'un d'humble va toujours être élevé dans la vie. Et que quelqu'un d'orgueilleux va toujours être brisé par la vie. Preuve par l'évidence, regardez la vie des gens élevés, c'est des gens qui ont été humbles en général. La vie des gens brisés, c'est des gens qui ont été orgueilleux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des gens qui font le malin et qui brillent. Mais toute chose se reconnaît dans la durée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand tu vois quelqu'un orgueilleux aujourd'hui, là, Suivez-le pendant quelques années. Tu vas voir que rapidement, il va être brisé. Mais si tu vois quelqu'un qui depuis 20 ans, depuis 30 ans, brille, est respecté, regarde bien, il a une grande dose d'humilité. La vie enseigne, et c'est une loi de la vie, que l'humilité précède toujours la gloire et que l'orgueil précède toujours la déchéance.
Bon, merci. Ma seconde préoccupation est celle-ci. Mm-hmm. Nous savons que nous sommes tous dans la chair. Nous sommes des hommes. Des fois, quand on rencontre les difficultés, on est humilié. Il y a des choses qu'on rencontre, qu'on raconte plutôt à l'encontre de Dieu. Est-ce que ces choses-là sont pardonnables?
Oui, Dieu nous pardonne tout. Il nous aime tellement qu'il nous pardonne tout. Surtout quand on se rend compte qu'on a déconné avec lui, qu'on le regrette et qu'on lui demande pardon. Comme il dit, s'il est mort à la croix pour nous pardonner, que nous ne pardonnerait-il pas? Oui, Dieu n'est pas un papa belliqueux qui cherche à détruire les gens. Il nous aime tellement qu'il a accepté d'aller à la croix pour que nos péchés ne nous détruisent pas. À plus forte raison, quand on les regrette, il est prompt et heureux de les pardonner.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
En fait, moi, j'aimerais savoir un petit truc à propos de l'humilité. Bon. Est-ce qu'on doit s'humilier jusqu'au point où on n'est plus, on devient zéro, on n'a plus de valeur?
Donnez-moi un exemple.
Bon. Sous forme de ce que vous avez dit, être esclave, s'humilier jusqu'à ce que tu deviens esclave et pour rien du tout, c'est de toi on parle, c'est de toi on dit si, c'est de toi on dit ça.
Moi je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Hein. Vous me donnez des exemples concrets.
Vous ne comprenez pas. Bon, s'humilier au point où.
Et tu veux dire quelque chose que tu ne dis pas clairement. Dis clairement les choses pour que je comprenne ce que tu veux dire.
Est-ce que je suis en train de dire. On dit s'humilier, être humble. Bon, chaque fois, c'est toi on envoie, c'est toi on dit va me prendre de l'eau à la douche et tu veux l'humilier. Ah, lave-moi ma voiture, chaque fois tu es humble et ses enfants viennent, ils te disent encore, ah mon frère, tu es là, ça va. Lave-moi ma voiture hein, et tu t'humilies toujours. Là, donc, est-ce que ça là, ça va précéder à la gloire un jour ou bien?
Oui. Oui. Quand vous regardez bien par exemple, vous allez voir que quand quelqu'un est dans une situation où il a la pression, où il est humilié, même quand il est brimé, c'est-à-dire que l'injustice rentre dedans, à première vue, les hommes le plaignent. Mais dans la durée, il réussit toujours mieux que ceux qui n'ont pas été brimés. Celui qui, dans une maison, est maltraité comme ça, entre tous ses frères, les autres parce qu'ils sont peut-être d'une autre mère, son chéri, lui, il est brimé. Regardez dans l'avenir, il va toujours réussir mieux qu'eux. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, il est obligé d'être plus rigoureux. Il va se réveiller à 5 heures, là où les autres se réveillent à 8 heures. Il va travailler jusqu'à 2 heures, là où les autres sont déjà en train de dormir à 20 heures. Il va mal manger, il va avoir des soucis. C'est-à-dire que la vie va l'endurer, va le fortifier. Il va devenir un roc habitué aux problèmes. Quand dans la vie, il va vouloir relever des défis. Quand on dit se réveiller à 5 heures, lui c'est un jeu pour lui. Les autres vont être en train de pleurer quand ils se réveillent à 5 heures. C'est-à-dire que quand dans la vie, vous subissez, c'est comme quand on fait le camp militaire, quand on fait l'armée, quand vous subissez des brimades, ça fait mal, mais cela vous prépare toujours plus à la gloire que les gens qui n'ont rien subi. L'humilité précède toujours la gloire. Si vous fuyez l'humilité, si vous fuyez l'humiliation, vous fuyez la gloire. C'est rare que vous allez voir quelqu'un au sommet qui n'a pas dans sa vie des épisodes de grande humiliation. On sort de l'humiliation plus fort que jamais. Celui qui n'a jamais été humilié ne peut pas être un chef. Au risque de devoir bondir sur les gens tout le temps, quand on n'a pas pris ça. Une autre question. Ne vous plaignez jamais d'avoir vous humilié. C'est dur, mais ça développe en vous des capacités aussi bien humaines que spirituelles très très importantes pour le succès. Et cela vous développe aussi la capacité de respecter les plus petits que vous. Quand quelqu'un a été humilié, de deux choses l'une, soit il a bien accepté l'humiliation et devient un bon chef, soit il a été rebelle et après il veut brimer les autres aussi. Mais quelqu'un qui accepte spirituellement l'humiliation va généralement être un bon chef parce qu'il sait ce que vivent les petits. Quand il est chef, il devient un chef beaucoup plus sage, beaucoup un meilleur meneur d'hommes que le chef qui n'a jamais été humilié et qui ne sait pas ce qu'on vit quand on est sous quelqu'un. Oui? De toute évidence, tout ce que moi je dis, c'est dans le cadre de la foi. Si tu acceptes d'être humilié, si tu es humilié en croyant au fétiche, bon, tu vas te mordre des doigts avec eux, c'est tout. On n'a pas souvent le choix. Hein. Vous avez le choix de pleurer ou de rire pendant que vous êtes humilié. Mais quand vient l'heure de l'humiliation, on n'a pas le choix. Quand tu dois aller sur la table d'opération, tu ne demandes pas ton avis. Si tu as juste élégé le mot de vente, tu fais le malin.
Mais quand tu as une crise aiguë d'appendicite, on te dit dans 2 heures tu vas mourir, on ne te demande pas ton avis. C'est pareil. Tu peux suivre la table d'opération de l'humiliation quand tu veux. Mais il y a des moments dans ta vie, tu passes, tu n'as pas le choix. Et dans ces moments, il vaut mieux avoir la sagesse, la foi, pour comprendre que même cette humiliation concourt à votre bien, plutôt que de se rebeller, de se stresser. Et il faut aussi comprendre que quand on parle d'humilité, on parle d'humiliation. C'est vrai que l'humilité passe parfois par l'humiliation. Mais au vrai sens du mot, l'humilité, ce n'est même pas l'humiliation. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait de faire le malin. Faire le malin, d'être prétentieux, c'est une forme d'orgueil. Mais il y a une forme d'orgueil au niveau spirituel plus subtile que celle-là. Et que nous avons tous. Et qui est le plus grand des pièges spirituels pour un chrétien. C'est la croyance que nous pouvons nous en sortir par nos efforts. La Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est quand je suis le plus faible que je suis fort. C'est quand ma capacité atteint ses limites que Dieu manifeste la sienne. Les hommes croient souvent qu'ils peuvent. Quand on a un problème, on commence à réfléchir, on veut courir, on veut faire des relations, on veut mettre des techniques. C'est de l'orgueil. D'ailleurs, le fait de croire qu'on peut faire quelque chose par ses forces pour sortir d'un problème, la Bible le définit comme l'orgueil. Et la Bible définit l'humilité comme le fait de savoir qu'on ne peut rien si ce n'est pas la force de l'esprit. Cela veut dire quoi? Et j'ai souvent donné cet exemple. Vous allez voir que par exemple, quand on dit orgueil, on voit des gens sûrs d'eux, des gens prétentieux, c'est vrai. Mais le Seigneur m'a appris que l'orgueil se réveille le plus souvent parmi les peureux. Dieu m'a démontré une fois, et moi-même quand il a commencé, j'étais surpris, il m'a dit, mais les peureux sont les plus gros orgueilleux du monde. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, pour avoir peur, il faut être un orgueilleux. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi concrètement? Explique-moi. Il m'a expliqué, il dit, mais la peur c'est quoi? C'est quelqu'un qui, pour faire quelque chose, fait d'abord ses plans en comptant sur lui, en croyant qu'il peut. Il fait ses plans, il commence, il oublie même que Dieu existe. Il dit, je vais, ça va donner, puis fait ses plans. Il commence à y aller. Et en chemin, il se rend compte que, ah, ses provisions sont fausses. Il rencontre grâce au chemin. Il rencontre des difficultés. Il rencontre des impasses qu'il n'avait pas prévues. Il découvre subitement qu'il ne peut pas avancer. Il panique. Il a peur. Il commence à trembler. Il est paralysé. Il a peur parce qu'il avait d'abord cru qu'il pouvait. Et que découvrant en cours de route qu'il ne peut pas, il ne sait plus quoi faire. Il est effrayé. Mais celui qui est humble dit, moi, je ne peux rien par moi. Seigneur, d'abord, ce que tu veux. Quand on a volé la famille de David, il n'a pas poursuivi les gens. Il est d'abord allé consulter l'Éternel. M'autorises-tu à les poursuivre? Il est général. Il a une armée. Il aurait pu poursuivre les gens qui ont pris sa famille sans demander l'avis de Dieu. On prend ta famille. Tu as l'armée. Et tu prends le temps de dire, Seigneur, confie-moi d'abord que je peux le poursuivre. Dieu a dit oui avant qu'il attaque. Abraham, quand Abraham voulait délivrer Lot, il n'a pas attaqué les gens. Avant de partir, Seigneur, m'autorises-tu à les poursuivre? David n'a perdu aucune bataille dans sa vie parce qu'il n'a jamais combattu par ses propres forces. Jamais il n'a perdu une bataille parce que toutes ses batailles ont été guidées, instruites et coordonnées par le Saint-Esprit. C'est ça l'humilité. Mais l'orgueil dit, bon, comme nous avons une armée, fais ci, attaquez, fais ça. Quand il voit là-bas, il voit qu'il est en déroute maintenant, il commence à trembler, il ne sait plus quoi faire, comme Saül. L'humble ne commence rien sans le Seigneur. Mais quand il commence avec le Seigneur, quand il sait que le Seigneur a gré ses voies, que Dieu a dit d'aller, rien ne peut l'effrayer parce que c'est que rien ne peut arrêter Dieu. Quelles que soient les circonstances, même si à la mer rouge, il attend, il dit, si Dieu m'a dit d'aller, il va se débrouiller. J'attends de voir ce qui va se passer. Celui qui a marché par la foi, celui qui marche en ne comptant pas ses forces, mais sur le Saint-Esprit, il n'a jamais peur. Il peut être paniqué un peu, il peut se calmer, il peut douter, il peut avoir du mal à être serein. Mais il sait au fond de lui, comme Josué face au mieux, que si le Seigneur a dit marcher sur Jéricho, le Seigneur sera quelque chose à Jéricho. Mais tu ne peux pas décider d'attaquer les murs de Jéricho par ta stratégie. Et qu'arrivé face au mur, tu n'as pas peur. Tu vas voir des murs de 15 mètres. Qu'est-ce que tu peux faire humainement pour briser ces murs? Donc, les gens peureux sont en général les gens les plus orgueilleux. Les gens qui croient au fond d'eux qu'ils peuvent quelque chose et qui, quand la réalité leur prouve le contraire, paniquent. Au début, je n'ai pas cru, mais tous les jours, Dieu me l'a prouvé. Et j'ai compris que l'orgueil est la plus grande cause de la peur dans nos vies. Le jour où vous laissez tomber l'orgueil, le jour où vous apprenez à ne plus compter sur vos forces, mais à ne compter que sur la puissance de Dieu, plus rien ne pourra vous faire peur. Car là où Dieu t'a envoyé, rien ne peut te détourner. Tu vas gagner forcément. Car quand Dieu t'envoie quelque part, il met les provisions. S'il ouvre une porte, personne ne peut te la fermer. Donc on a peur quand on a cru d'abord qu'on pouvait. Donc si la prochaine fois vous allez avoir peur, faites l'audit de votre cœur. Il y a certainement un peu d'orgueil dedans. On continue les questions?
Oui, j'ai une question.
Oui.
Au cours de votre exposé, vous avez parlé de découvrir sa vocation. J'aimerais savoir sur quoi se base-t-on pour découvrir sa vocation. Est-ce sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on aime faire?
Parce que la vocation, vous pouvez demander à écouter les séminaires qu'on a donnés sur le sujet, il y en a eu plusieurs. La vocation, vous la retrouvez à l'intersection de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire et de ce que les temps et les circonstances vous permettent de faire. Tu peux aimer faire quelque chose et que les portes de la chose ne s'ouvrent pas à toi. Tu peux aimer faire quelque chose, ne pas savoir le faire, ou tu peux. C'est-à-dire, la vocation est souvent l'intersection de ta capacité, de ta passion et de tes opportunités. Ce qui se retrouve au carrefour de ces trois-là est souvent dans ta vocation. Dieu ne peut pas, par exemple, vouloir que tu sois un astronaute et ne pas te donner les moyens d'aller dans une école d'astronomie. Si Dieu veut, a prévu que tu sois astronaute, d'une manière ou d'une autre, il va te faire entrer dans l'école d'astronomie. Ou alors, il va t'aider à être astronome sans entrer dans l'école d'astronomie. Mais tu ne peux pas après vous dire, Seigneur, et pourtant tu m'as dit d'être astronome. Si tu as demandé d'être astronome, il va t'ouvrir les portes d'une école d'astronomie. Si tu ne les as pas ouvertes, c'est qu'il ne t'a pas demandé d'être astronome. Quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. L'absence d'une provision est la preuve qu'il n'y a pas de vision de Dieu ou que la vision n'est pas encore autant appropriée. Dieu peut te promettre quelque chose, mais pas au moment où tu le veux. Mais si Dieu te promet quelque chose, au moment où il a prévu, les portes s'ouvriront forcément. Mais en matière de vocation, il faut faire la différence entre les moyens de vivre une vocation et la vocation. Je donne un exemple. On peut avoir une vocation à sauver des vies. Cela peut passer par la médecine. Cela peut passer par le fait d'être infirmière. Cela peut passer par exemple par le fait d'être urgentiste, par exemple au niveau des sapeurs-pompiers. Cela peut passer même par l'évangélisation. Vous pouvez aller prier pour des gens, guérir des malades sans jamais aller dans l'école de médecine et guérir plus de gens qu'un médecin. Donc Dieu est maître des temps et des circonstances. Il agit selon tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas parce que vous avez vocation à guérir des gens que vous avez vocation à être médecin. Dieu peut dire que vous soyez simplement un apôtre ou un prophète qui guérit des gens sans jamais connaître la médecine. Mais si vous êtes né pour guérir des gens, d'une manière ou d'une autre, vous guérissez des gens. Vous pouvez même être un gestionnaire et guérir des gens. Il y a plus de gens qui meurent à cause du désordre à l'hôpital que de maladies. Vous savez ça, j'espère. Donc, si le CNH est un bon gestionnaire, on va sauver autant de vies que quand il y a de bons médecins. Quand le gaz finit et que les gens meurent, c'est tous les jours. Quand parce qu'il faut aller acheter un médicament à la pharmacie parce qu'il n'y en a pas, les gens meurent. Vous savez le nombre de morts qui sont dus au désordre managérial dans nos hôpitaux? Il y a plus de gens qui meurent par l'absence de bons gestionnaires dans nos hôpitaux béninois que par l'absence de médecins. Donc, tu peux même sauver des vies en étant gestionnaire. Tu peux sauver des vies en étant marché public. Si tu arrives à faire ce que l'argent des maternités, des hôpitaux ne soit pas détourné pour faire des campagnes électorales, tu auras sauvé beaucoup de vies. Donc, la vocation n'est pas seulement dans votre métier. Plusieurs métiers, plusieurs activités professionnelles peuvent permettre à quelqu'un d'accomplir une vocation. Et parfois, Dieu utilise des détours inespérés pour vous ramener quelque part. D'autres questions? Allez-y.
Vous avez dit que les plus peureuses sont les plus orgueilleuses. Je voudrais vous demander les plus honteux.
Qu'est-ce que vous appelez honteux?
Ceux qui ont la honte.
Alors, les gens qui ont la honte sont des gens égocentriques. Et c'est des gens qui se regardent tout le temps en se comparant aux autres. Et qui, parce que cette comparaison leur paraît désavantageuse, sont frustrés. Avoir honte, c'est se dire, est-ce que je suis digne d'être avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est se confier au regard des autres pour juger sa valeur. Et sachant que les autres n'ont pas un bon regard si vous, vous êtes malheureux. Mais la foi, c'est de ne compter que sur le regard de Dieu. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent que vous êtes. Même ce que vous pensez de vous-même ne vaut rien. Ce que les autres pensent de vous ne vaut rien. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit de vous. Le gars honteux, c'est le gars qui veut trouver sa joie dans le regard des hommes au lieu de le trouver dans le regard de Dieu. Et il est puni parce qu'il considère davantage l'opinion des hommes que l'opinion de Dieu. Pour ne pas avoir honte, il faut regarder ce que Dieu pense de vous et vous moquer de ce que les hommes pensent de vous. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais tendre l'oreille pour écouter les sages conseils des hommes qui peuvent vous aider. Mais votre valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de vous. Vous verrez même demander à mes collaborateurs comme Martin et consorts. Tout ce qu'un leader va faire, il va d'abord être critiqué, il va être combattu, il va être persécuté. S'il doit regarder les persécutions ou le comportement des gens pour décider s'il doit continuer, aucun leader ne ferait rien pour l'humanité. Les gens font presque toujours le bonheur de l'humanité malgré lui. Jésus a sauvé les hommes malgré eux. Ils l'ont crucifié, ils l'ont insulté, ils l'ont lapidé. Il a continué malgré tout pour les sauver. Quand une sage-femme veut accoucher un enfant, si la femme a un couteau, elle peut le poignarder. Elle va la gifler, elle va l'insulter, elle va lui donner des coups de pied. Mais si la femme va dire, bon, maintenant je suis fatigué, fais comme tu veux avec ton enfant, la dame va mourir. Donc, une sage-femme, même si tu es en train de l'insulter, de la gifler, de la brimer, Elle sait que son ministère, c'est de supporter tout ça pour te délivrer. Si elle arrête, tu es foutu, tu es mort. Un leader qui veut tenir compte de l'opinion des autres ne va jamais accomplir de grandes choses. Chaque fois qu'il voudra faire des réformes, que les gens vont crier au secours dans les rues, il va paniquer. Chaque fois que les gens vont s'agiter, il va paniquer. Conclusion, il n'avancera jamais. Un leader doit pouvoir avancer dans la direction que Dieu lui a instruite, que ça plaise ou non aux autres. Même si le monde entier dit qu'il a tort, il s'en fout du monde entier s'il a écouté Dieu. Si Dieu me dit « vas-y », même si le monde entier me dit « non, j'avance », mais si Dieu dit « n'y va pas », tout le monde peut m'applaudir, je ne bougerai pas. Peu d'hommes ont cette capacité. Les hommes font ce que les autres hommes les applaudissent pour faire. Ça, on dit « emlant, le noteur, le monde pousse souvent les idiots à faire des bêtises en les applaudissant sur le mauvais chemin. Mais dès qu'ils tombent dans le trou, ils ne voient plus personne autour d'eux. Mais quand vous êtes sur le bon chemin, rares sont les hommes qui vont vous apprécier. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Les hommes vont toujours combattre le vrai. Ils ne vont accepter le vrai que quand le vrai va s'imposer à eux. Mais pendant que tu avances, ils vont te critiquer, ils vont t'insulter, ils vont te lapider. Tu dois avoir la capacité de marcher fermement en regardant en avant, voyant par la foi, par la vision où tu vas, sans tenir aucun compte de ce qu'ils disent. Un jour, ils finiront par t'applaudir, oubliant qu'ils t'ont lapidé. Le jour de Christ, ils ont applaudi Jésus, ils lui ont tressé tapis rouge. Une semaine après, ils l'ont crucifié. Il ne faut pas se fier à l'opinion des hommes. Il n'y a rien de plus futile que cela. Oui.
Merci, monsieur. À travers vos développements de l'humilité et la gloire, j'aimerais te poser une question pour savoir si est-ce qu'il y a un lien entre l'humilité et la loi d'attraction.
Je n'aime pas du tout la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une piraterie laïque du principe de la foi. Vous savez, les États-Unis sont la plus grande puissance du monde aujourd'hui. En 3 siècles, ils ont été créés et ils sont aujourd'hui les premiers 102e presque dans tous les domaines. 3 siècles, 300 ans. L'Afrique a des millénaires, l'Europe a des millénaires, l'Asie c'est pareil. Les États-Unis sont quasiment le dernier pays à naître. Mais parce qu'ils ont bâti tout leur pays sur la loi de Dieu, sur la Bible, on les appelait les puritains. C'était quasiment des intégristes exagérants sur la foi. Tout leur pays a été bâti en application bête et rigoureuse de la Bible. Et comme la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Vous tiendrez les portes de toutes les nations. En 3 siècles, c'est à peine les portes de Glélène. Les Américains qui sont les voyous, les endettés, les brigands partis d'Europe, en appliquant la Bible, sont devenus premiers sans deuxième dans tous les domaines. Tu prends les prix Nobel, tu vois que des Américains. Le sport, tu vois que les Américains. Le cinéma, la culture, l'économie, ils règnent sur le monde. Ils sont la tête et non la queue. En application bête, rigoureuse et mécanique de la parole de Dieu. Les plus grandes universités dont on parle, Harvard et consorts, ont été des universités créées par des chrétiens pour former des pasteurs chrétiens. C'est après qu'ils ont été progressivement laïcisés. Les Américains ont tellement réussi avec ce qu'on appelle le rêve américain que le monde a commencé à leur demander comment ils ont fait pour réussir. Mais le monde est tellement païen et laïque que dans ce monde sous prétexte de droits de l'homme, de laïcité et de séparation de l'État avec Dieu, dans le monde qui leur posait la question, il n'était plus politiquement correct de parler de Dieu en public. Les droits de l'homme, c'est la piraterie. Qu'est-ce qu'il y a dans les droits de l'homme qui ne sont pas écrits dans la Bible? Les droits de l'homme ont créé plus de problèmes. Il y a plus de problèmes dans le monde depuis les droits de l'homme que sur les droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de l'homme qui vont sauver l'humanité. C'est le respect, la crainte de Dieu qui va sauver l'humanité. Celui qui ne craint pas Dieu s'en fout de toute autre autorité. S'en fout du président, s'en fout du ministre, s'en fout du policier. Personne ne peut faire du bien à un autre homme à cause des droits de l'homme. On ne peut faire du bien aux hommes qu'à cause de la crainte de Dieu. Donc quand le monde a demandé aux Américains comment ils ont réussi, les Américains ont dû leur donner leur secret, mais en les reformulant pour ne pas avoir mentionné Dieu. Leadership, c'est américain. Management, c'est américain. Marketing, c'est américain. Toutes les disciplines de la performance sont américaines. Et comme je le démontre souvent ici, il n'y a rien en leadership qui ne soit pas écrit. Le meilleur professeur de leadership, c'est Jésus. Il n'y a rien en management que vous ne trouvez pas dans la Genèse. Il n'y a rien en marketing que vous ne trouvez pas dans les enseignements de Jésus. Quand on parle de la loi de l'attraction, c'est beaucoup de verbiage, de bavardage pour dire simplement ce que la Bible dit en 2 phrases. Ce que tu crois, tu l'obtiendras. Ce que tu crains, t'arrivera. Point final. Tout le reste, c'est du bavardage. Mais quelqu'un prend ces deux choses, fait de la délation, des commentaires, parle de cellules, de cosmos, de quelque chose qui a dit. Quand vous lisez ça même, on sent qu'il y a un nom dit dedans. Il y a de l'incohérence dans cette loi. Parce qu'on veut parler de la foi sans oser l'appeler la foi. J'appelle la loi de l'attraction et les théories de développement personnel, que moi-même j'ai enseigné avant de connaître le Seigneur, des pirateries, des photocopies païennes de la Bible. C'est comme si on prend une voiture Mercedes, on enlève le moteur, on met un moteur de carinatrie dedans, et on te dit de prendre la voiture. Mercedes, toi, tu dis qu'un Mercedes. Mais quand vous allez démarrer, on va voir que toi, tu peux parler là où la Mercedes va. Parce que tu as la carrosserie de la Mercedes, mais tu as un moteur de Karine à truie. Ça ne va pas loin. Si moi, je démarre en 2 minutes, je suis très, très loin de toi. Le développement personnel, c'est la Mercedes avec moteur de Karine à truie. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Quand vous connaissez le vrai, vous savez reconnaître le faux. Évidemment, si quelqu'un ne connaît pas la foi, il ne peut pas voir la différence entre la foi et le développement personnel. Le développement personnel a la prétention que l'homme peut tout s'il croit en lui. C'est presque vrai, mais c'est faux. L'homme peut tout, pas Christ en lui, s'il croit en Christ. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu ne vois pas cette petite différence. Cette petite différence fait que tu appliques développement personnel toute ta vie, tu ne verras rien. Tous les jeunes Benoît maintenant font développement personnel. Et j'ai contribué. J'ai tellement enseigné ça ce week-end matin. Mais ça ne marche pas. Moi, j'avoue, ça ne marche pas. J'ai enseigné développement personnel pendant 5 ans. Ça n'a rien donné. Mais je vois tous les jours ici ce que donne la foi. Je vois dans vos vies, je vois par vos témoignages, que quand Dieu me dit quelque chose, je vous le dis. Je vois le miracle. Mais quand j'enseigne développement personnel, aucun d'entre vous n'a jamais eu de miracle. J'ai essayé développement personnel. J'ai essayé changement. Vous savez, je suis un expert. Toute ma vie, j'ai cherché la révolution. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Ça ne marche pas. Mais avec Dieu, vos vies sont pour moi la preuve que Dieu honore toujours sa parole. Toujours. Parce que ça, c'est le vrai. Tout le reste, c'est la photocopie Bayon. Donc, les choses comme loi de l'attraction, là, c'est mieux que nos cultures païennes de jalousie, de cupidité, de peur, de mesquinerie. Parce que c'est déjà la piraterie de la foi. Mais ce n'est pas la peine de s'arrêter à la photocopie. Allez à l'original, c'est mieux. Dernière question.
Vous venez d'expliquer ce qui fait qu'un homme est honteux. Maintenant, j'aimerais savoir, très souvent, nous constatons dans un milieu ou bien dans une assemblée, lorsque quelqu'un fait mal, disons, prenons l'exemple d'un chrétien dans une église. Il fait mal, il a péché ou bien il a fait une erreur, on le sanctionne. Très souvent, au lieu de supporter, c'est-à-dire la rétribution de ses erreurs, de ses péchés, ce dernier, après, il fuit l'église ou bien il fuit ce lieu et par cause de honte, tout ça là. Comment gérer ce cas?
Alors, c'est une question complexe. Il y a plusieurs genre d'église, il y a plusieurs genres de sanctions, il y a plusieurs genres de coupables. Et il faut tenir toujours compte d'abord de l'âge spirituel des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne traite pas un enfant de 2 ans comme on traiterait un enfant de 5 ans et pas comme on traiterait un enfant de 10 ans. Si un enfant de 2 ans dit à un adulte imbécile, on lui dit que c'est pas bon, à la limite les adultes en rient. Mais on ne supportera pas qu'un enfant de 7 ans dise à un adulte imbécile, on va le corriger. C'est pareil dans la foi. Un gars qui a été drogué, bandit pendant des années, par la grâce de Dieu, il est touché par le Saint-Esprit, il arrive à l'église. Vous ne pouvez pas, parce que vous l'avez vu avec un bâton de cigarette, le mettre devant tout le monde, vous moquer de lui, le mettre sous sanction, le ridiculiser. Vous le chassez dans le monde. C'est irresponsable de la part des leaders spirituels de ridiculiser, d'humilier des jeunes convertis qui viennent de très loin. C'est comme si un parent se mettait à chicoter pendant 3 heures de temps un enfant qui a 1 an parce qu'il a fait pipi au lit. Ça n'a pas de sens. Je connais des gens qui étaient dans le monde, qui forniquaient parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient déjà fiancés. Ils ont découvert le Seigneur. Ils sont venus au Seigneur. Ils ont décidé de ne plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage. Ça n'a pas empêché le pasteur de se moquer d'eux en public. Ces gens-là, c'est des païens, ils viennent du monde, ils ont couché ensemble, on les met sous sanction. Finalement, ils sont sortis de l'église pour retourner dans le monde. Ça, ce n'est pas sage. Un homme de Dieu n'a pas à le faire. Dieu nous dit, il m'a dit il y a peut-être 6 mois, à peu près 1 an, il dit qu'il y a une différence entre juger les gens et accuser les gens. Dieu m'a dit que l'accusation est l'apanage de Satan. Dieu n'accuse jamais. Dieu juge. Satan accuse. La Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Jamais Dieu n'est l'accusateur. Dieu est le juge. Quelle est la différence entre le juge et l'accusateur? Le juge, c'est celui qui te dit, voilà la vérité, voilà la norme, voilà l'écart qui en toi est la norme, reviens par amour à la norme, parce que la norme va te donner la vie, là où tu vas te donner la mort. Juger quelqu'un, c'est-à-dire lui rappeler sa position par rapport à la vérité, c'est lui faire par amour un appel à revenir à la vérité. La Bible dit que quand ton frère est dans l'erreur, reprends-le, dis-le lui. S'il t'obéit, tu auras gagné ton frère. Le jugement de Dieu n'a pas pour vocation de briser les gens. Il a pour vocation de leur montrer le droit chemin et de les ramener sur le bon chemin autant que faire se peut avec l'amour. Il dit par exemple, va d'abord le lui dire, s'il ne t'écoute pas, appelle deux personnes. S'il ne les écoute pas, appelle les anciens. Mais dans nos églises, il suffit qu'un pasteur te voit avec quelqu'un, c'est un public qui va t'humilier. Il ne va pas d'abord t'appeler. Il ne respecte pas la Bible. L'accusation, c'est le jugement qui n'est pas motivé par l'amour, mais qui est motivé par l'orgueil, qui est motivé par l'autoritarisme, qui est motivé par la volonté de prouver que soit on est un peu comme les pharisiens, qui prenaient plaisir à accuser les gens pour montrer qu'ils sont bons. Ils n'accusaient pas les gens, ils ne jugeaient pas les gens par amour, mais ils voulaient juste jouer les grands chefs qui sont parfaits et qui repèrent l'imperfection dans la vie des gens. Or, quand vous allez voir leur propre vie, comme le dit le Seigneur, il faudrait mieux s'occuper des poutres qui sont dans leurs yeux avant de regarder les pailles qu'il y a dans les yeux des fidèles. Donc, il y a des cas où je pense sincèrement que les églises sont coupables de manière irresponsable et sans maturité de chasser des jeunes convertis en ne tenant pas compte de leur âge spirituel et en ne tenant pas compte des différents niveaux de sanctions qui doivent être prises en compte avant de venir humilier les gens en public. Parce qu'après tout, les gens doivent vivre dans une communauté. Si vous les donnez en spectacle, vous les humiliez, vous leur rendez la vie dans la communauté difficile. Si cela n'est pas le dernier recours, on ne devrait pas en arriver là. Maintenant, il peut y avoir des cas, effectivement, où tous les différents niveaux ont été entrepris, où on voit que c'est vraiment de la mauvaise foi, que c'est des gens qui refusent de se repentir, qu'on a tout fait pour les corriger en vain. À ce moment-là, on peut arriver à ces extrémités. Et à ce moment, comme le dit Paul, c'est qu'on sait que si passé ça, ils ne comprennent pas, c'est là la peine, c'est même pas eux qui vont partir, on va les chasser de l'église. Mais c'est vraiment le dernier recours, parce que l'église a vocation à sortir les gens du monde, pas les renvoyer dans le monde. Ça peut arriver qu'on pousse quelqu'un à dire, maintenant, ça suffit, tu ne veux pas suivre le Seigneur, sors d'ici. Mais ça doit être le dernier recours, ce qui suppose beaucoup, beaucoup de sagesse dans la gestion de la sanction. Je crois que nous allons un peu trop, trop vite en besoin dans la gestion de la sanction et que cela détruit l'église plus qu'elle ne sauve l'église. Il faut tenir compte de l'histoire des gens, parce que avant de sanctionner quelqu'un, il faut s'assurer qu'il a compris les enjeux de la loi. Or, souvent, les gens n'ont pas compris les enjeux de la loi. On les sanctionne sans qu'ils ne comprennent pourquoi on les sanctionne si durement que ça. Je pense que cela est contre-productif et il faut prier pour que les hommes de Dieu reçoivent la sagesse en la matière. C'est bon, on va prier.
Levons-nous pour la prière, s'il vous plaît. Excellent Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous venons te rendre grâce sincèrement pour cette soirée. Merci de ce que tu viens de nous donner encore des révélations sur ta parole. Nous sommes très reconnaissants et nous disons, Père, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir permis à chacun de nous de jouir de ce moment. Parce qu'il y en a qui ont véritablement besoin de cette vérité, de cet enseignement, mais qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas pu participer à cette séance. Si tu as permis que nous soyons là, c'est par ta grâce. C'est parce que tu veux changer quelque chose dans nos vies, dans notre manière de considérer, de comprendre, d'interpréter les choses. Seigneur, permets que ce que nous avons entendu ici ce soir transforme véritablement et durablement nos vies au nom de Jésus. Je voudrais demander, Seigneur, à ton Esprit Saint de continuer l'œuvre d'enseignement, d'explication et de révélation dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, dès que quelqu'un ici, à partir de ce soir, voit sa vie entièrement révolutionnée au nom de Jésus. Que quelqu'un à partir de ce soir voit son intelligence renouvelée au nom de Jésus. Que quelqu'un à partir de ce soir expérimente, Seigneur, une nouvelle dimension au nom de Jésus. Qu'à partir de ceci, Seigneur, quelqu'un quitte le chômage, quitte le sous-emploi, quitte la paresse pour véritablement s'occuper et gérer son temps au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ces paroles, ces vérités que nous avons entendues restent gravées dans notre mémoire et commencent par influencer, coordonner, diriger nos pas et nos actions désormais au nom de Jésus. Père, merci infiniment pour le serviteur que tu as utilisé pour nous. Nous demandons que davantage ton onction coule dans sa vie au nom de Jésus. Nous demandons au Seigneur de lui donner encore plus de révélations sur des thèmes concernant la jeunesse, des thèmes concernant nos vies, notre manière de prendre et de considérer les choses, afin qu'à partir des fois à venir, des autres séances, ce dont nous avons véritablement besoin nous soit enseigné par lui au nom de Jésus. Nous allons prendre la route tout à l'heure. Je libère le ministère des anges à notre avantage au nom de Jésus. Que chacun de nous soit conduit dans sa demeure au nom de Jésus. Je prie afin que ceux que nous avons laissés à la maison, Père, tu les gardes, tu les protèges, tu les bénisses au nom de Jésus. Donne de retrouver nos demeures en paix et en quiétude, Père. Je prie afin que cette nuit, dans le puissant nom de Jésus, tu donnes à quelqu'un d'avoir une nuit paisible au nom de Jésus. La parole déclare que celui qui a Jésus à la lumière de la vie donne à quelqu'un de recevoir une révélation sur sa vie au nom de Jésus. Oriente quelqu'un sur ce qu'il doit faire au nom de Jésus. Papa, parle à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Tire quelqu'un de la voie de la perdition au nom de Jésus. Je viens te recommander les cœurs. Que quelqu'un ouvre son cœur ce soir afin que tu entres en sauveur et en Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci infiniment parce que tu nous prépares pour nous bénir encore les fois à venir. Merci parce que cet enseignement nous bénit abondamment et qu'à partir de maintenant, chacun trouve le chemin de sa vocation et de sa destinée pour être une terre de justice sur terre afin de servir durablement ta gloire. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?